élevé, la plateforme de l'heure. Le 4
avec votre boy Tony.
Shout out Larry derrière la cam.
Élevé, la plateforme de l'heure. Aujourd'hui avec le 4.
Tony, shout out Larry derrière la cam.
Vous savez déjà, notre guest aujourd'hui, Patrice Laflamme, manager, puis propriétaire d'une compagnie Managed by Laflamme. Exact.
Management
à la flamme, ouais. Et sûr, fait qu'on va faire le tour un peu de tout ça aujourd'hui, son parcours, des conseils pour les jeunes entrepreneurs, les managers, puis les gens derrière la scène, des choses à savoir un petit peu qu'on nous explique pas, hein. Souvent, on n'a pas tous les détails, on cherche, mais on sait pas où chercher, on trouve pas vraiment l'information qu'on a de besoin, fait qu'on va faire un peu le tour de tout ça. Ça va être explicatif, puis bien intéressant comme d'habitude. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. La température commence à être plus fraîche, là, mais ça va bien, on garde le moral. Puis un autre bel épisode aujourd'hui, je suis content que tu sois là, merci beaucoup.
Ben, merci pour l'invitation.
Yes sir. Puis toi, Tony?
Ça va?
Yes,
ça va.
Hein?
On est là.
Dernièrement, là, tu fais plein de hiking, les montagnes, tout ça, c'est cool.
Yes, histoire de recharger les batteries, comme on a dit la dernière fois. Relaxer un petit peu, ça fait vraiment du bien,
Mais ouais, ça doit te faire du bien physiquement, puis...
Mentalement, spirituellement, c'est... tout en même temps, c'est ça que j'aime justement de ce sport-là, ça permet justement de te recharger en même temps que de drainer physiquement, recharger mentalement. Je trouve que c'est le best, honnêtement, man. Je veux vraiment aimer ça.
Lâche pas mon homme, je suis fier de toi.
Yes, sir, merci.
Ouais, ouais, pour de vrai, la prochaine fois, on va te dire, Pat, tu viendras faire un tour avec nous, on va aller à Charlevoix là, faire une belle montagne. Là.
Justement, tes managers, tu sais, on part comme ça, on divague un peu, mais tes managers, t'as-tu un outlet, toi, que tu vas chercher pour... libérer l'esprit, puis qui te fait du bien, mais qui n'a pas rapport avec ta carrière puis ce que tu fais dans le travail?
Quoi, je te dirais que mes journées sont quand même chargées. T'sais, moi, j'ai 3 enfants. Fait que surtout que la 3e n'était pas prévue, je te dirais. Fait que j'ai un gap. Là. J'ai comme 11, 9, puis 11 mois. T'sais. Fait que c'est sûr que mes journées sont assez rock'n'roll. Fait que tu sais, comme moi, je me lève. Je prends soin des enfants, je vais les porter à l'école, après ça, je travaille. Après ça, j'arrête vers comme l'heure du souper. Quand tout le monde se couche, souvent, je continue. T'sais. Fait qu'un downtime, j'ai pas tout le temps ce luxe-là. T'sais, il y a 24 heures dans une journée, fait que j'y vais selon le temps que j'ai. Mon downtime, je te dirais, c'est un petit peu plus la fin de semaine que j'essaye de garder le plus possible pour moi. Au début de ma carrière, du downtime, je n'avais pas parce que j'étais cave un peu. Je pensais que... Hey man, moi je suis gérant d'artiste, faut que je sois disponible 24 heures sur 24. Comme je traînais mon téléphone dans la douche, man. J'avais acheté un téléphone waterproof, je me disais, si, écoute, il n'y a pas de mauvais moment pour recevoir un appel, faut que je réponde. Puis à un moment donné, c'est comme non, man, t'as le droit de dormir, t'as le droit de te reposer. Puis un appel qui n'est pas si important que ça, même si les artistes, souvent, ils pensent que Chris, c'est là mon idée, man, c'est important. C'est comme prends un papier, un crayon, écris-le, on s'en reparle demain à 9h. Mais si c'est do or die, je suis là. Mais depuis que j'ai fait ça, là, je te dirais, j'ai mon temps familial qui est un petit peu mon downtime. Je passe du temps avec mes enfants, avec ma blonde. Quand je suis vraiment tout seul, puis que j'ai du temps, j'aime ça, man, juste comme réfléchir, tu sais, prendre du temps, écouter de la musique, penser à des idées, tu sais, j'aime bien réfléchir, puis pas de temps en temps, une petite game de jeux vidéo, man,
Ouais. Ben ouais, c'est ça, il faut se retrouver à quelque part. Puis oui, on hustle, on travaille, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, tout le monde prône ça. Go, done, on est encore jeune. Mais à un moment donné, on parle pas aussi des burn-out, puis des gens qui ont plus d'énergie. Puis que oui, tu peux te donner à 120%, mais à un moment donné, si tu te nourris pas toi-même, comment tu veux nourrir tes projets puis les autres? C'est comme essayer 100%. De remplir un verre d'eau avec un récipient vide, t'as plus rien à donner, tu sais. Fait que je pense que c'est important. Oui, il faut se donner beaucoup, mais il faut un petit moment, que ce soit les jeux vidéo, du hiking, une marche avec le chien, du temps en famille aussi, ça peut en être.
Mais
hein,
tu sais, faut que tu te respectes, je te dirais, là-dedans aussi, tu sais, parce que, tu sais, jouer aux jeux vidéo, fumer un joint ou prendre une bière, c'est toutes des affaires que ça tue pas nécessairement personne, puis ça peut être correct. Mais ça tombe dans l'extrême, c'est pas nécessairement une solution non plus, tu sais. Je connais du monde qui se réfugie dans les jeux vidéo puis qui sont online aussi puis qui font rien que ça. Puis,
c'est comme un échappatoire.
C'est ça, que ça devient un échappatoire. T'sais, je pense pas que c'est ça le but non plus, mais on parle d'élever, là, c'est ça la plateforme. Pour moi, un affaire que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est Chris, j'ai un numéro 1, je suis pas plus heureux. T'sais. J'en ai pas. Je suis pas moins heureux. Tu sais, ça se peut des fois sur le coup, ça va me faire un petit ah, Chris, c'est pas moi qui l'a ou ah yes, t'es gelé, mais c'est pas comme significatif à long terme. Tu sais, c'est très éphémère. T'sais. Fait faut que tu découvres aussi dans ton toi-même, là, c'est quoi qui te rend heureux. T'sais. Puis ça, je pense que c'est plus essentiel que tout parce que t'as du monde qui sont millionnaires puis milliardaires puis qui se tuent. Là. Tu peux gagner un Grammy demain puis te suicider après-demain. Là, je veux dire, comme on le voit, là, ça arrive. Mm-hmm. Fait, t'sais, souvent, on va mettre énormément de temps dans notre carrière parce qu'on pense que ah, man, le succès va me rendre heureux ou l'argent va me rendre heureux. Mais après ça, d'un coup, tu l'as. Puis là, tu te dis comme shit, je me sens vide. Moi, honnêtement, si je parle vraiment juste comme personnellement, là, j'étais sûr et certain que la première fois qu'un de mes artistes signerait un record deal avec un major, je partirais à broyer, genre émotivement. Puis là, on signait le deal, puis là, j'étais là comme, voyons donc, Chris, comment ça, man? Tu vois, qu'il se passe? Je sens rien, comme, comment. Tu sais, j'avais vraiment des attentes envers moi-même de comment j'allais me sentir au moment de. Puis finalement, tu sais, on a signé le deal, puis j'ai fait comme, Chris, non, j'ai pas été émotif, man, j'ai pas versé une larme, puis tout. Fait tu sais, des fois, les choses que tu penses qui vont t'amener une émotion, qui vont t'amener heureux, quand t'es rendu à la vivre, tu te rends compte des fois que, ah non, finalement, c'est pas ça que je cherchais.
C'est vrai.
Le c'est quoi que je cherche, je pense que c'est ça qu'il faut que tu définis, tu sais, puis en vieillissant, des fois, la vie nous aide à le faire. Chose que quand t'es jeune, des fois, t'es influencé par, ah, moi, je veux un gros char, je veux tel ou tel truc, tu sais. Mais je pense que chercher c'est quoi ton bonheur, qu'est-ce qui va te rendre heureux, ça va t'aider dans tes moments libres. Choisir qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps, ça va venir important. Tu sais, comme toi, faire du hiking, ça te rend heureux. Fait que tu te dis, OK, ben j'ai tant d'heures cette semaine, je vais en prendre un peu pour faire ça, puis je sais que ça me rend heureux, tu sais. Fait que quand tu as cette conscience-là, je pense que ça fait une méchante différence dans ta vie et dans ton bonheur personnel. Là.
100%, c'est vrai, c'est un beau message aussi, puis tu as raison, parce que moi je le vois surtout, on dirait, moi, je le vois plus dans l'achat, tu sais, parce que j'ai quand même eu des problèmes d'achat compulsif. Moi, j'achetais toujours les affaires qui étaient sur la coche, puis tout, puis on dirait que le gros feeling, là, le gros rush de dopamine, il est beaucoup dans l'appréhension de avant d'avoir l'objet. Quand tu l'as, après, t'es comme, ah, OK, ouais.
C'est
hein,
un peu différent.
Ah, exact, exact.
Ben, c'est comme que je disais, que des fois, avec ta carrière, tu penses que ah, tu sais, tel succès, je vais être heureux. T'sais, ben des artistes, je parle avec eux, puis ils me disent ah, tu sais, moi, là, quand que je vais avoir ce que tel autre artiste a, là, tu sais, je vais être heureux. Mais là, en ce moment, tu sais, comme là, je suis sur un grind, ça me prend absolument ça. Je dis, OK, mais cette personne-là, elle a le même discours que toi sur quelqu'un d'autre, tu sais. Mm-hmm. Fait que si en ce moment, tu n'es pas capable d'être heureux avec ce que tu as, ben, mec, tu ailles plus, il va encore avoir du monde qui ont plus que toi. Fait que c'est comme tu vas nourrir une bébite qui a toujours faim, là, finalement. T'sais. Fait que je pense que c'est important de se comprendre. T'sais, comme toi, tu as fini par te comprendre que hey man, je faisais des achats compulsifs. Mm-hmm. Mais des fois, quand tu es en plein milieu de la tempête, tu le vois pas, man.
Exact, 100%. Ben oui.
D'être bien entouré aussi, d'avoir des bons conseils, du monde qui voit un peu ce que tu fais, peu importe c'est quoi, mais de l'extérieur, des fois on est tellement pris dans notre vie, dans notre truc, au jour le jour, 7 jours semaine, on grind, whatever quoi, on voit plus la perspective vue de haut, on est tellement pris dedans. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu dis aussi par rapport aux artistes, mais par rapport à n'importe quoi aussi, on se fixe tellement des buts qu'on focus sur le but, puis on oublie tout le parcours pour s'y rendre, qui est probablement autant sinon plus gratifiant que le but même, tu sais.
Tu vois, c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'à un moment donné, ce que je disais avec quelqu'un que je travaille, je disais, Chris, on prend pas le temps de célébrer nos petites victoires.
Mm-hmm.
Puis même, on célébrait pas plus nos grosses victoires, souvent, parce qu'on était tout le temps en train de checker c'est quoi la prochaine, tu sais. Mm-hmm. Mais après ça, je parlais avec des gens qui étaient comme des OG, mettons, du monde, qui ont eu des assez grosses carrières. Tu dois te sacrer ça.
Ben ouais.
Ben ouais.
Tabarnak. Tu sais, du monde qui a eu des grosses carrières, puis qu'à un moment donné, ben, tu vieillis, t'es moins la saveur du mois. T'sais. Pas faire mon méchant, mais c'est pas mal sûr que si Céline Dion s'en va dans le bureau de Sony aujourd'hui, ils vont être surpris de la voir. T'sais. Même si c'est Céline Dion. Pourquoi? Parce que c'est plus elle la saveur du mois. Le jeune de 15-16 ans, il attend pas la prochaine toune à Céline ou le prochain album, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une roue. Puis cette personne-là me disait, tu sais, quand que ça l'est venu comme plus tranquille, quand ça l'a go down, c'est là que je me suis mis à apprécier tous ces moments-là que j'ai vécu. Puis là, j'avais de la nostalgie de, ah, si j'aimerais ça revivre ces moments-là parce que j'en profiterais différemment, j'y enjoyerais plus, tu sais. Mais je trouvais ça triste. Je trouvais ça beau, mais en même temps, je trouvais ça triste parce que je me disais, Chris, les odds qu'il va pouvoir revivre ça, c'est pas impossible, mais c'est, des fois, tu sais pas ce que la vie te réserve. Fait que l'importance d'être fier. Tu sais, des fois, là, je vois des artistes qui ont 2000 monthly listeners, même, qui sont découragés. Mais je dis, tu sais, il y en a qui en ont même pas 1000. T'sais. Peut-être que toi, ce que tu vises, c'est 1 million, mais. T'sais, c'est à force de faire des pas que tu vas te rendre là, mais tu peux déjà être fier que aujourd'hui, tu as ce milestone-là, puis demain, il va t'en amener un autre. T'sais. Mais si tu n'es pas capable de enjoy le processus, c'est là que c'est dur pour la santé mentale. C'est là que c'est dur pour la motivation, pour plein de choses, je pense. Là.
100% tu as raison. Puis pendant que tu parles de tout ça, je t'entends parler là, de prix, d'albums certifiés, tout ça. Toi, je pense que déjà, là, t'as un milestone de fait. J'ai vu un peu passer sur tes réseaux sociaux dernièrement, t'en parlais. Si je me trompe pas, rappelle-moi si je me trompe pas. Mais deux albums platine, un certifié or, bientôt un projet aussi qui va être présenté au Juno, si je me trompe pas.
Dans le fond, j'ai eu la chance de travailler sur bien des projets qui ont été certifiés et tout. Fait que je connais pas mes stats par cœur. J'ai une certification diamant en Chine. J'ai un 4 fois platine en Australie. J'ai deux fois platine aux États-Unis, Trippie Red. T'sais, en tout et partout, si je ne me trompe pas, j'ai comme 9 platines et 4 ou 5 gold.
Félicitations.
À peu près 1,5 milliard de streams total. C'est pas genre plateforme DSP. Talk your shit. 400 millions à peu près de views YouTube pour ce que ça vaut. Puis ben des singles puis des albums vendus. Mais tu sais, honnêtement, tu sais, pour moi, les chiffres, man.
Non, je comprends, puis c'est pas nécessairement pour ça, mais je le sais que dans la scène qu'on est aujourd'hui, puis dans l'ère qu'on est aujourd'hui, les gens, c'est ça qu'ils veulent voir, c'est ça qui leur ouvre leurs yeux puis les oreilles, ouais, souvent.
Tu sais, c'est correct, je pense que ça fait partie du établir, mettons, une certaine crédibilité puis une confiance. T'sais, tu veux aller acheter un produit parce que tu as confiance en la personne qui te vend le produit ou le service, peu importe. Là. Moi, personnellement, même si je le comprends, tu sais, je ne vais pas dire j'irai pas sur tel podcast ou je ne travaillerai pas avec telle personne parce qu'ils sont pas assez big ou ils n'ont pas assez de chiffres. T'sais. Pour moi, je regarde l'être humain, je regarde le concept, je regarde si je connecte avec ça. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Ça, je trouve ça plate. Moi, personnellement, des chiffres, tu sais, tu as bien beau dire que tu as les plus beaux chiffres dans la pièce. Moi, ma mère, elle pense que je suis le nouveau Renan Gélil. Renan Gélil serait encore vivant. Elle dirait, ferme ta gueule, le gros, puis va travailler. Là, tu comprends?
Mange tes croûtes.
Tu sais, c'est facile d'être dans une pièce puis jouer au gros gars ou
à l'éléphant.
Ou à la grosse fille, whatever. Pas de grosse fille dans le sens.
À l'éléphant dans la pièce.
Là, ça se peut qu'il sonne mal. Tu peux le si tu veux. Mais en tout cas, où tu peux le garder, garde. C'est all good. Mais tu sais, ce que j'essaie de dire avec ça, c'est. Tu sais, il y a toujours mieux. Il y a toujours moins, mais après, tu peux être aujourd'hui moins hot que quelqu'un, mais lui aussi a déjà été dans ta position, puis tu sais pas dans 5 ans où est-ce que lui va être, où est-ce que toi tu vas être, tu sais, fait faut que tu traites tout le monde avec un respect, puis pour moi, les stats, les chiffres, comme, oui, j'ai pas le choix de les mentionner des fois quand c'est des communiqués ou des affaires de même, parce que oui, t'as des médias qui portent attention à ça, mais quand que je parle avec monsieur, madame, tout le monde, il y a juste 3 chiffres pour moi, là. Tu sais, c'est comme mon enfant numéro 1, mon enfant numéro 2, mon enfant numéro 3. C'est juste ça qui compte pour moi. Tu sais, le restant, man, c'est comme, je m'en fous. On est 2 êtres 100%. Humains qui se parlent, 3 êtres humains qui se parlent, tu sais. C'est ça qui est important pour moi, tu sais. Le reste, qui a vendu le plus d'albums, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi, puis la semaine prochaine, c'est la madame au bord de la rue. Là.
100%, t'as raison. Puis par rapport à ça, le bout de plate un peu comme tu dis, mais par rapport à ces chiffres-là, ces projets-là qui ont été certifiés, tu peux-tu nommer une couple d'artistes avec qui tu as travaillé au travers des années?
Écoute, c'est sûr qu'il y en a que j'ai managé comme tel. Il y en a que ça a été que j'ai travaillé avec ces artistes-là à travers, je te dirais, des activités de management que, exemple, sur la toune de Trippie Redd, Miss the Rage, qui est avec Playboi Carti aussi, ben le gars qui a fait comme la loupe principale de la musique, ben c'est moi qui le gère. Fait que tu sais, c'est comme, non, je gère pas Trippie Redd, non, je gère pas Playboi Carti, mais on a travaillé sur Miss the Rage, tu sais. Fait qu'il y a plein de chansons quand même assez importantes sur lesquelles j'ai travaillé, parce que je gère pas juste des artistes qui performent, tu sais, je gère beaucoup des songwriters, je gère beaucoup des producers. Fait que tu sais, souvent, eux autres, ben, tu peux vendre un beat à n'importe qui, là. Tu peux vendre un beat à Snoop demain, là, tu sais. Fait que ça en faire en sorte que t'as une track que Snoop y est dessus, là. Mais, tu sais, il y a des artistes que j'ai des trucs avec eux que j'ai jamais... Tu sais, j'ai un track avec Ludacris puis Ty Dolla $ign. Ils me connaissent pas, là. Je les ai jamais vus, puis... mais, tu sais, on a fait une track que quelqu'un avec qui je travaillais dessus, tu comprends? Fait que, même chose si je prends comme mon roster de clients. T'sais, c'est tous des gars qui ont écrit des tonnes pour plein de monde, qui ont mixé des tonnes. T'sais, fait, si je check juste mon roster, je veux dire, comme on a 7 plaques diamants, 88 platines, je pense, puis 28 gold. Puis, t'sais, je veux dire, après ça, ce qui m'impressionne, moi, c'est pas ce chiffre-là. T'sais, moi, ce qui m'impressionne, c'est plus... C'est qui les personnes avec qui ont travaillé. Fait qu'on parle de des Rihanna, des David Guetta, des Justin Bieber, ces gens-là. Fait que tu sais, pour moi, ça, c'est plus la crédibilité, c'est avec qui tu as réussi à avoir des placements, tu as réussi à faire des affaires. Mais après, tu peux être sur l'album à Drake, puis tu es sur un filler, fait que la toune, elle va pas faire des platines, puis tout. Mais Chris, ça n'enlève pas l'accomplissement que tu es sur l'album à Drake, là, tu sais. Fait que je pense que c'est de bâtir des trucs, puis... Tu sais, je suis comme chanceux d'avoir eu la chance de travailler sur des chansons, mettons, quand tu me parles de noms. Tu sais, moi, personnellement, je te dirais Tech N9ne, Chris Calico, travaillé avec Murder Beats, travaillé avec Ludacris, Playboi Carti, Tech N9ne, je l'ai nommé déjà, Trippie Redd. Man, il y en a tellement, c'est dur. Dans le temps avec Zombie Boy, je l'avais géré pendant comme les trois dernières années de sa vie. J'ai fait des trucs pas juste dans le hip-hop non plus. Là, j'ai fait des trucs autant québécois, genre, que, mais tu sais, québécois francophone. Là. Fait, oui, Marc Dupré, des enfants de même. Que j'ai fait des trucs québécois, mettons, quand je gérais Nayali, mettons, qu'on avait fait des trucs avec Soulja, tout le kit. Fait, c'est très varié, puis c'est autant dans le dance music que la pop, qu'un peu tout. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir grandi dans une famille où est-ce que c'était très éclectique, la musique. Là. Tout le monde écoutait des choses différentes. Puis moi, vu que j'étais le plus jeune, ben, j'écoutais un peu ce que tout le monde écoutait, pas par défaut. Là. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'apprécier plein de styles musicaux différents. Fait que je suis pas pris à dire juste « Ah, moi, je peux juste gérer des rappers ou juste des producers de hip-hop. » Je suis capable de reconnaître le talent dans plein de sphères musicales différentes. Pour l'instant, je suis encore capable, là, peut-être, mais j'ai 65, j'aurais peut-être plus ce skill set-là. Mais tu sais, ça fait qu'aujourd'hui, je m'amuse, man, puis je vais vraiment sur le feeling de j'ai-tu le goût d'être là-dedans, dans ce projet-là? Est-ce que la musique me parle? Est-ce que l'artiste, ça me parle? Mais tu sais, même si j'ai plein de gros noms, j'ai eu plein de fucking beaux moments avec plein de monde que je te nommerais, puis tu serais comme. C'est qui ces personnes-là, tu sais. Mais je pense que c'est un peu ça la beauté de notre métier, c'est tu choisis avec qui tu veux travailler. Puis après, moi, que t'es un gros nom, pas un gros nom, je m'en fous, tu sais, c'est plus, on peut-tu faire de quoi de cool ensemble? Puis même si ça n'a pas autant de views, pas autant de streams, si t'es fier de ce que t'as fait, de la qualité, ça t'a rendu heureux, là, bro, de gagner, man.
100%, ben ouais, t'as raison. Puis comme Rick Rubin, il disait, hein, que je quote des fois, là, que j'aime beaucoup son parcours puis de la manière qu'il explique les choses, il lui dit toujours, si cette journée-là, dans le studio, ils ont sorti la meilleure qualité de musique, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire. C'est ça, c'est là qu'ils sont gagnants. Il faut juste qu'ils sortent la meilleure affaire de l'artiste, puis du moment, que ça hit 1 million ou 1000 streams. Si c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire cette journée-là, ils ont réussi.
Mais aussi, il faut que tu acceptes. Faut que tu acceptes ta position. C'est un gardien de but, là. Bon, c'est chill, là. Peut-être la fin de semaine, tu as une petite ligue de garage, tu fais des tirs au net, là. Mais si, quand tu joues, là, tu es le gardien de but, là, c'est pas ton camp du but, man. Tu mets toute l'équipe en danger. Tu joues ta position. Fait que moi, en tant que gérant, si je m'en vais travailler sur un projet, peu importe c'est quoi le projet, qu'il soit gros, qu'il soit petit. T'sais, si j'ai décidé, moi, je fais partie de ce projet-là, t'sais, mon but, c'est que ce projet-là fonctionne au mieux de ses capacités et que sa réalité qu'il y a. C'est sûr que tu as des projets qui ont plein de budget, que tu as des artistes qui sont déjà connus, que tu sais que ça va être plus facile ou même que l'impact garanti va être plus gros on paper parce que tous les éléments sont là, tu sais. Mais il faut que tu acceptes que toi, tu as un job à faire et c'est pas juste about you. Tu sais, des fois, c'est facile de juste comme ramener les choses comme vers nous un peu, mais tu sais, ce que tu dis de Rick Rubin, à la fin de la journée, je veux dire, moi, j'ai des chansons, là, je pensais que ça allait être numéro 1, ça ne l'a pas été. Des chansons que je trippais pas tant que ça, puis c'est devenu des numéro 1, puis j'étais là comme, voir, tabarnak. Voir qu'elle, elle a réussi à surpasser l'autre, mais tu sais, il y a tellement de circonstances, il y a tellement de trucs qui peuvent changer la donne, qui peuvent aider un truc à fonctionner, qu'un autre, puis des fois, c'est juste le timing.
Le momentum, c'est ça que j'allais dire.
Bon, mais le momentum en plus, mais le timing de, tu sais pas, admettons, tu sors une toune cette semaine, qui d'autre en sort une en même temps. Peut-être que une semaine avant, tu aurais eu un numéro 1, mais là, à cause du timing, tu vas être numéro 2 parce que Drake sort un album en même temps, puis tu fais comme fuck. T'sais. Comme, tu sais, des fois, il y a des choses que tu peux pas prévoir. C'est un peu la beauté de tout ça. Mais après, comme je te dis, c'est toi, tu as un travail à faire. Si tu as accepté de participer à un projet, tu le fais, tu mets toute la passion que tu as, toute l'énergie que tu as, puis tu acceptes les résultats que ça va être, man. Tu comprends?
Let's go, let's go. Puis en parlant de passion, j'imagine, là, avec tout ce parcours-là, au départ de tout ça, j'imagine que la musique, c'est venu vraiment par passion. C'est quoi qui t'amène vers ça, là, à être manager, puis, tu sais, au début de tout ça?
Ben moi, je voulais pas être gérant au début. Je savais même pas c'était quoi. Tu sais, fait que moi, au début, le côté business m'intéressait sans trop je m'en rendre compte. Là. J'étais jeune, je veux pas, tu sais. Mais mes idoles, c'était genre des gars comme Dr. Dre qui avaient leur label et tout, tu sais. Mais c'était aussi des artistes, souvent, ces gens-là. C'est Masterpiece, un artiste. Dre, c'est un artiste. P. Diddy, bon, son nom, il n'est pas trop à mode de ce temps-là, mais lui aussi, tu sais.
Il est dans l'eau chaude.
Ouais, chaude.
Bouillante.
Ouais, chaude bouillante. Il ne reste plus d'eau dans le chaudron. Là. Ça fait longtemps qu'il chauffe. Là. Mais, blague à part, tu sais, moi, c'était un peu les exemples que j'avais. Fait que moi, je me disais, fuck, faut que j'apprenne à faire des beats et tout. Fait que, tu sais, quand j'avais 15 ans, je me rappelle, c'était déjà clair dans ma tête. Moi, je vais être dans la musique. Puis je disais à ma mère, moi, je vais prendre un rapper de Montréal. J'étais très, très hip-hop. Je vais prendre un rapper de Montréal en anglais, parce que je voulais rien savoir des trucs en français à cette époque-là. Je vais prendre quelqu'un en anglais, puis je vais lui faire vendre des albums en dehors du Québec, puis c'est sûr que ça va marcher. T'sais. Ma mère me disait, écoute, là, tu parles pas anglais. On vient pas d'une famille riche, là, puis t'as pas de contact. Fait que tu oublies ça, ça marchera pas, là. Mais tu sais, moi, j'ai développé jeune l'habilité de m'en coller. C'est comme plus que tu peux te dire, I don't care, I don't give a fuck, plus que tu apprends à développer ce skill set-là de te foutre ce que les autres pensent, puis de te foutre ce que les autres disent, assez plus vite que tu es heureux, man. Parce que tu arrêtes de penser en fonction de rendre tout le monde heureux. Parce que même si tu fais la meilleure tune au monde, même si tu fais là, la chanson que selon toi c'est undeniable, il y a du monde qui va pas l'aimer. Il n'y a aucun artiste, aucune chanson qui est unanime là, pour la planète. Là. La seule tune peut-être que tout le monde aime, c'est genre Bonafide parce que tu vas avoir des cadeaux. Tu sais, mais sinon, à part ça, man, comme quelle chanson tout le monde aime? Tu sais, il y a du monde qui vont dire fuck Tupac, puis il y a du monde qui ont sa face tatouée sur leur bras. Là, n'importe quel artiste, n'importe quel tune, il n'y a rien d'indéniable. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut que tu sois capable de te détacher et de dire, peu importe la qualité de ce que je fais, peu importe la décision, peu importe ce que je fais dans la vie, là, peu importe, whatever, décision, il y a du monde qui va être pour, il y a du monde qui va être contre. Fait que si c'est ça le portrait, ben arrange-toi pour que toi au moins tu es à l'aise avec ta décision. Fait que tu sais, moi, le monde, il était tout comme, ah, tu devrais pas faire ça dans la vie, tu seras pas capable de manger plus tard. Puis tout, t'sais, moi, ma mère avait un gros concern, là, c'était genre, avant de vouloir faire ça dans la vie, moi, je voulais faire comme dans le film Bloodsport, là. Genre, moi, à cette époque-là, là, les MMA, ça commençait, là. Moi, j'allais voir genre Saint-Pierre se battre à l'auditorium de Verdun, genre. Fait que, tu sais, moi, c'était comme, yo, moi, je veux faire ça, ou la musique, ou les deux, tu sais. Ma mère était découragée en crise, hein. Mais moi, c'est un ou l'autre qui m'aurait rendu heureux, tu sais. Mm-hmm. Puis, à la base, c'est ça qui compte. Fait que, j'ai attendu à 18 ans, parce que j'avais besoin d'avoir 18 ans pour pouvoir aller à très basse. Est-ce que aller dans ce genre d'école-là, je le recommande ou je le recommande pas? Je pense que ça dépend des gens. Moi, j'avais pas de contact dans l'industrie de la musique. Là. Zéro. Puis je savais pas non plus comment m'en faire. T'sais. L'Internet, ça existait, mais c'est les réseaux sociaux, ça existait pas. Fait que c'est comme, fuck, comment que je peux reach out les artistes? Comment je peux aller chercher du gain? Comment je peux aller chercher de l'information? Puis là, à ce moment-là, je veux pas être gérant encore. Moi, je veux juste apprendre à faire des beats puis rentrer dans l'industrie. Fait que je me suis inscrit à cette école-là. Puis là, à un moment donné, on a un cours de genre industrie de la musique, mais fucking basic, là. Comme très, très, très basic. Mais c'était assez pour m'ouvrir les yeux puis faire comme, yo, fuck, faire des beats, man. Moi, j'avais soqué de Banks and Ranks en plus dans ma classe, là. On avait 18 ans. Hmm. Puis lui, il faisait déjà des gros beats, là. Quand tu regardes où ce qui est rendu, Soke, je veux dire, comme, il a toujours été un high level, même à cette époque-là. Puis moi, j'écoutais, puis j'étais comme, bon. J'étais à des années-lumière. Puis by the time, je suis là, lui, il va gagner un Grammy déjà. Fait que, c'est comme. Puis le côté business, ça me parlait. Je m'avais rendu compte que c'était pas juste le stéréotype que tu vois dans les films, que ah, les gérants, c'est tous des crosseurs, puis les compagnies de disques, c'est tous des crosseurs, puis c'est. Il faut que tu dis à l'artiste quoi dire et quoi faire, un peu comme Renan Gélil le faisait, là, comme vraiment un peu un contrôle de l'image et tout. Je me suis rendu compte que c'était autre chose, puis ça me parlait, puis j'ai fait comme, hey, finalement, je veux faire gérant d'artiste. J'ai switch d'école parce qu'eux, ils ne feraient pas le programme à l'époque. Fait que j'avais été à l'école du show business. J'ai fait comme un an et demi, plus ou moins là-bas. Là. Puis j'ai appris les bases un petit peu plus approfondies. Fait que j'avais appris tout ce qui est les types de contrats. Tout ce qui est, mettons, les droits d'auteur, les droits voisins, comment ça marche, faire de l'argent, la production du spectacle, tous ces trucs-là. Puis j'avais eu la chance que la fille qui faisait le cours pour tout ce qui est les contrats, parce qu'on s'entend, quand tu es un gérant, les contrats, ça fait beaucoup partie de ta vie. Hein. Cette femme-là a travaillé avec ma soeur pendant longtemps. Fait que là, quand elle dit « Hey, moi, j'ai travaillé à telle place », je fais comme « Oh, tu connais-tu... Tu connais-tu Nathalie Larouche? » Fait qu'elle a dit, ben ouais, tu sais. Fait que là, je fais comment? Ben c'est ma soeur. Fait que là, elle, après ça, on était genre super tête. Fait qu'elle, elle m'a donné aussi beaucoup de cours après les heures de cours. Ou est-ce que, tu sais, elle m'a donné de son temps parce qu'elle voyait que, tu sais, je voulais apprendre. Fait qu'elle m'a donné aussi beaucoup, beaucoup de temps d'approfondir encore plus tout ce qu'est les contrats puis tout. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça m'a aidé.
Un bon exemple de timing puis de contact qui est arrivé comme
ouais,
au bon
ouais, moment. Puis tu sais, moi je suis sorti de cette école-là, puis c'était clair que moi je vais être un gérant dans la vie. Puis j'ai commencé tout de suite en sortant. J'ai pas eu du succès tout de suite en sortant, on s'entend. Mais comme c'était en février 2010, j'ai jamais look back là, since then. Là,
puis, avant qu'on aille trop loin, une petite question qui me vient en tête comme ça, dans cette époque-là, là, tu dis 15 ans, la musique, tout ça, c'est quoi que tu écoutais, c'est quoi qui jouait autant, j'imagine, plus aux États-Unis ou en Europe, en France, ou même ici au Québec, à Montréal, tu parlais là, d'artistes locaux. C'est quoi qui jouait dans ton... ça devait être un iPod ou je sais pas quoi à ce moment-là. Ah, shit.
Ben écoute, si je fais comme, admettons, je retourne plus loin, là, puis je te dis un peu, genre, comme musicalement, mes influences, là, depuis que, admettons, je suis un petit peu plus jeune. Tu sais, moi, c'est plus vers 5-6 ans que la musique, ça a vraiment pris plus d'importance dans ma vie. Là. Fait que là, on était dans l'époque, genre Vanilla Ice, puis MC Hammer, puis Run-DMC, puis toutes ces affaires-là. Ma soeur, elle écoutait beaucoup du Madonna, puis tout. Puis mes beaux-frères, eux autres, étaient beaucoup sur des trucs de genre Guns N' Roses, ces trucs-là. Fait que j'avais quand même une oreille assez diversifiée, mais c'était tout quand même assez des noms pop dans leur style respectif. Mes parents étaient plus sur des trucs comme québécois ou des genres de Elvis, Beatles, ces choses-là. Fait que c'était comme très wide. Après, c'est une de mes sœurs qui est tombée dans le dance music, genre Eurodance. Là. L'autre, elle écoutait genre du gros rock. À un moment donné, celle qui écoutait du dance, elle s'est mis à écouter du hip-hop. Puis moi, j'étais adopté par ma marraine puis mon parrain quand j'avais comme 3 mois. Puis j'ai 2 frères. Comme... Fait que tu sais, quand je parle de mes sœurs, là, bon, techniquement, c'est mes cousines, mais je vais avoir 40 ans. Puis j'habitais là, j'avais 3 mois. Fait que pour moi, c'est mes sœurs, on s'entend. Mais j'ai comme 2 frères comme biologiques. Puis eux autres, c'était rap, là, comme like, hardcore, tu sais. Fait que c'est vraiment avec eux autres que je suis tombé peut-être plus en profondeur. Puis ma mère, elle comprenait pas un estime en anglais. Fait que, tu sais, moi, j'avais 9 ans, à peu près, ou 10 ans. Puis, tu sais, je bumpais l'album Doggy Style de Snoop. Puis, on s'entend, un enfant devrait peut-être pas écouter ça. Mais moi, j'étais un gros fan de tout ce qui était West Coast à cette époque-là. Fait que tout ce qui était Tupac, Snoop,
Dr. Dre.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai grandi beaucoup là-dessus. Par après, j'ai catch un peu plus comme tout ce qui est New York, Atlanta, ces affaires-là. Fait que, tu sais, j'étais quand même un gros fan de hip-hop. À l'époque que je faisais mon cours, je te dirais que j'étais plus sur du unreleased stuff. Tu sais, tous mes amis, c'était des DJ. Fait que eux, ils allaient travailler dans les clubs. Ils achetaient des vinyles encore là, à cette époque-là. C'était pas comme aujourd'hui. Là, tu pouvais mixer avec des clés USB. Fait qu'eux autres, ils allaient acheter des vinyles. Puis moi, j'avais une bonne oreille pour savoir qu'est-ce qui va être un single. Fait qu'ils me faisaient entendre les albums d'avance. Puis ils me disaient, ça va être quoi le single? Fait que j'étais comme, moi, ça serait tel track. Puis tu sais, moi, j'étais comme un Sherlock, là. Je checkais, là, genre, c'est qui le producer, c'est qui a fait le mix. Comme, c'était tout écrit sur le vinyle, là. Fait que je checkais comme super gros ça, ça m'intéressait à fond. Fait que, tu sais, je te dirais que, tu sais, à cette époque-là, moi, je parlais de des artistes, quand même, quand j'étais encore au secondaire. Tu sais, comme, t'avais des Lil Wayne qui n'avaient pas encore blow up, qui faisaient des 400 degrees. Puis j'étais déjà comme, yo, Lil Wayne, il va être gros un jour, puis le monde rigole de moi. T'sais. Ou 50 Cent qui avait Power of the Dollar. Moi, j'avais déjà des vinyles de cet album-là, comme il avait fait une track avec Beyoncé. C'était marqué Beyoncé de Destiny's Child.
Là, dans les mixtape era. Là,
avant le mixtape era, avant qu'il se fasse shot. Puis moi, tu sais, comme il y avait un artiste dans The Source, j'achetais tous les magazines, même The Source, Double XL. Puis j'ai dit, yo, 50, man, il va blow up. Puis, tu sais, j'ai toujours eu un peu ce talent-là de.
L'oreille musicale.
Ouais, d'avoir un petit talent A&R, d'être capable de spotter le potentiel puis tout. Fait que, tu sais, je te dirais, ça m'a aidé dans mon travail. Puis, tu sais, à cette époque-là, je voulais tellement trouver mon 50, mon Lil Wayne, disons, que j'écoutais rien vraiment qui était déjà sorti. J'essayais de trouver quelque chose. Puis à cette époque-là, tu avais MySpace, qui était comme l'ancêtre d'un Facebook, là, si tu veux. Puis tu pouvais mettre des players là-dessus, puis mettre des chansons. Fait que moi, j'étais comme sur MySpace à tous les jours, chercher des artistes de Montréal qui cherchaient genre des management. J'ai juste écouté plein de tonnes. Jusqu'à temps que j'en ai spoté un ou deux, qu'eux autres, j'ai fait comme, ah man, eux autres, je believe vraiment dans leur truc. Fait qu'à cette époque-là, si tu me demandes qu'est-ce que t'écoutais de comme vraiment connu, tu sais, j'écoutais les mêmes grosse affaire undeniable que tout le monde, mais mon temps était vraiment plus sur la découverte. Là.
Les artistes, là, avant, dans leur come-up, avant qu'ils soient connus, là, t'avais un peu ce regard-là, probablement observatoire, analytique, un peu. Là.
Ben, tu sais, ouais, c'est un autre era. T'sais, aujourd'hui, le monde, il check beaucoup les data analytiques, justement. T'sais, ils vont checker. Tu peux aller aujourd'hui sur un Vibrate ou un Chartmetric, checker dans tous les pays c'est qui a le plus de monthly listeners, c'est qui a le plus de streams, c'est ça. Tu pouvais pas faire ça avant. Là. Fait que, tu sais, moi, sur MySpace, tu pouvais voir un count de plays. Mais, tu sais, moi, je cherchais, mettons, Montreal Artist Looking for Manager. T'sais. Fait que là, j'allais écouter comme les trucs. C'est sûr que ce que je gravitais le plus autour à cette époque-là, c'était beaucoup le hip-hop. Fait que, tu sais, je cherchais à signer comme un rapper. Puis, tu sais, ça a été vraiment ça, là. Tu sais, vraiment de la recherche en profondeur. Aujourd'hui, ce qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup de l'inverse. T'sais, ils vont checker le data, mais la recherche en profondeur musicale puis le brand, tout ça va peut-être moins être là. Fait que, tu sais, moi, je voulais vraiment une connexion avec la musique. Puis des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui sortent, qui sont signés. Puis il n'y a pas vraiment de connexion avec la musique. C'est vraiment comme, yo, cette tune-là est trending sur TikTok en ce moment, fait qu'on va la sign, on va l'exploiter, on va mettre un bag de promo dessus, on va l'exploiter. Mais après, d'un coup que la chanson est plus populaire, si on ne connecte pas avec l'artiste, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils finissent par perdre leur deal. Puis tu sais, le label, ben, pas vraiment une vraie connexion avec l'artiste. T'sais. C'était comme, c'est pas avec l'artiste qui avait un genre de bonding de « oh man, j'aime ce qu'il fait ». C'était comme,
avec la
chanson. Cette tune-là est cool.
C'était pas organique nécessairement.
Puis même des fois, ils vont signer quelque chose que carrément, ils vont pas fondamentalement trouver cool non plus. C'est juste qu'ils voient une opportunité financière. Mmh. Puis c'est comme, OK, ben, si je mets tant là-dessus, je m'attends à générer tant. Puis c'est de la business à la fin de la journée. Il ne faut pas oublier que la musique, là, tous les artistes là, quasiment que je connais là, ou que j'ai côtoyé dans ma vie, là, pour eux autres, là, ils pensent que ce qui est le plus important, c'est la musique. Malheureusement, c'est pas ça qui est le plus important.
Surtout en 2024, avec les réseaux sociaux, avec toutes les plateformes autour, les gens, ils veulent connaître de l'artiste. T'sais. Avant, tu avais juste, comme tu dis, soit les vinyles, ou après ça, les cassettes, ou après ça, les albums, la petite pochette avec les photos, les remerciements, qui a travaillé sur le projet, puis on regardait ça religieusement. Mais à Star, c'est plus ça, c'est une autre era. Tout est sur des plateformes digitales, c'est des chiffres, des nombres, puis là, le monde, il focus là-dessus. Mais avec les réseaux sociaux, je pense que c'est là aussi que tu es capable d'aller chercher comme un lien avec le public, l'artiste, après ça, des plateformes comme on a, des podcasts, des radios, des émissions de télé comme on parlait là, un peu avant l'émission, ben, je pense que c'est là que les gens peuvent avoir un attachement à l'artiste autre que juste le vidéoclip qui sort à un certain moment donné. Il y a eu un temps, c'était juste ça, le côté visuel que tu peux avoir de l'artiste là, s'il n'y avait pas encore d'interview. Mais là, on est dans un air de... Le public, faut qu'il soit nourri quasiment à tous les jours ou à toutes les semaines.
Mais le public a toujours voulu ça, dans le fond. T'sais, c'est juste que, tu sais, dans le temps, tu pouvais ouvrir ta télé, écouter Musique Plus, Much Music, MTV à longueur de journée. Puis il y avait plein d'émissions. Puis... Là, je parle de avant la fin, là, parce qu'à la fin, c'était de plus en plus mettons, des reality shows, des affaires par rapport. Mm. Mais tu sais, il y a eu une époque où toutes les émissions, c'était toutes reliées à la musique, puis à des invités, puis tout, là. Fait que les artistes ont toujours été créateurs de contenu. C'est juste que leur contenu pouvait vivre plus longtemps. Si tu sortais un clip, tu pouvais surfer longtemps là-dessus. Aujourd'hui, tu peux moins surfer longtemps, mais il y a aussi une quantité aujourd'hui qu'on a qu'on n'avait pas dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus facile. Je ne vais pas dire que c'est plus facile en termes de réussite, mais n'importe qui veut être un artiste aujourd'hui, tu peux t'acheter un ordinateur, aller acheter un lease à 25$, enregistrer avec un petit micro puis avoir une petite démo. Là. Chose que tu ne pouvais pas faire là, 20 ans, là, 30 ans. T'sais, c'était beaucoup plus dispendieux faire de la musique. Fait il y en a qui se disaient bon, ben écoute, j'ai juste pas les moyens de le faire, je pourrais pas. Tandis qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui le font. Mais là, les autres, dans leur tête, c'est genre moi, je sors ça, là, puis je vais être une vedette demain, puis je vais blow up. Là. Puis là, ils se découragent parce que faire la musique, c'est beaucoup plus facile que monétiser ta musique. T'sais. Fait que là, il y en a qui se disent que ça fait 30 chansons, je sors, puis je fais pas de cash. Mais c'est ce que j'aime dire, moi, souvent, ma comparaison, c'est. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu un petit ventre, là, j'aime ça manger. Tout le monde aime ça manger.
Ça, ben ouais, okay. C'est moi aussi.
Moi, là, je fais des fucking bons burgers. Okay? Ils sont bons, mes burgers. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, je fais des burgers, ça fait que j'ai du monde qui vient m'acheter des boulettes à soir? Est-ce que parce que je fais des burgers, je peux dire, le monde va me connaître plus qu'un McDonald's? Est-ce que parce que je fais des burgers, un jour, je vais avoir mon restaurant? Tu sais, faire quelque chose, puis en faire une business, tu sais... Notre grand-mère fait toute la meilleure crise de sauce à spaghetti. Pourtant, il n'y a personne qui a jamais payé notre grand-mère pour un souper. Tu sais, fait que si aujourd'hui, hey, mettons, là, je peux faire un restaurant pour mes burgers, mes boulettes, là, il faut que je mette en place que là, il faut que je me trouve un local. Il faut que je paye un loyer. Il faut que je me paye des employés. Il faut que je me paye l'équipement. Il faut que je me paye la promo. Parce que sinon, là, on s'entend, là, ma famille va toute me supporter là, la journée du lancement. ils vont tous venir me donner un petit peu d'attention, un petit peu d'argent. Et ils vont pas venir manger à tous les jours chez nous parce qu'il y a plein d'autres restaurants. Ben, la musique, c'est la même petite affaire. Tu peux sortir une toune, puis là, au début, tous tes amis, toute ta famille, ils vont te support, ils vont partager. Ils vont pas faire ça tous les jours. C'est pas eux autres qui vont te faire vivre. T'sais? Puis c'est le même principe que le restaurant qu'il faut qu'il engage son employé pour servir la clientèle, puis il faut qu'il paye pour de la promo. Un artiste, ben, il a besoin d'un gérant, il a besoin d'un label des fois, il a besoin d'une équipe. T'sais? Il a besoin de budget pour faire de la promo, pour faire connaître son produit. Fait que c'est la même chose. T'sais? C'est pas parce que ton produit est bon que tu vas réussir à le commercialiser, parce que commercialiser quelque chose, c'est un art. Puis tu peux avoir un produit de merde puis faire plus d'argent, comme je fais des bons burgers, mais McDo, ils vont me crisser une volée de main pareil, parce que tout le monde connaît McDo, mais personne connaît mes burgers, tu comprends?
C'est commercialisé, puis eux autres, ils ont le push derrière le produit à leur public direct, ce qui manque souvent avec certains artistes qui vont avoir la meilleure musique, mais ils n'ont pas le push, la direction vers leur public, vers leur clientèle cible.
Fait que tu sais, don't get me wrong, la musique est importante pareil. T'sais, le produit est important dans le sens qu'il faut qu'il soit bien packagé, il faut qu'il soit bon, mais ça ne s'arrête pas là, ça ne se limite pas à ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ont développé des façons de faire de la méchante bonne musique ou avoir un bon produit, peu importe l'industrie, là. Mais que c'est après tout le marketing, la promo, comme comment que je fais pour prendre ça et le faire connaître par du monde, c'est ça qui est le plus dur, puis c'est ça qui coûte le plus cher aussi. Puis tu peux avoir Dr. Dre qui a fait ta tonne, on s'en fout, là. Si personne la connaît, personne ne va l'acheter. Là.
C'est vrai, 100%.
On n'achète pas ce qu'on connaît pas, mais on achète la merde à tous les jours, par exemple. Là. On achète des affaires par rapport, là. C'est que tu sais que c'est pas si bon que ça, mais tu vas l'acheter pareil. Là.
Des fois, c'est l'accessibilité. Ça peut être plein de trucs, là, mais beaucoup l'accessibilité. On veut tout à un clic, à star. Ils disent notre attention est rendue à 3-5 secondes. Il faut que ça soit rapide, qu'on clique, qu'on connecte. Si tu connectes pas, tu le connais pas. Ben là, de faire les recherches, oui, il y en a qui vont le faire, mais c'est pas tout le monde. Il faut que tu sois vraiment là, que ton t'aies une. Un besoin vers ça, tu sais, c'est de trouver du monde qui n'ont pas nécessairement le besoin, mais de leur pas nécessairement imposé, mais qui arrive à adhérer à ton produit. C'est ça le challenge, là, je pense, puis où est-ce que tu rentres un
c'est
peu.
C'est sûr, mais tu sais, après, je veux dire, quand tu fais un produit, là, quand tu vends quelque chose, mettons là, on reprend encore l'exemple de burgers. Parce que
ah, il est bon.
Il est bon, mon burger. Mais, j'ai hâte d'y goûter. Tu sais, quand tu t'en vas au resto, tu as du monde qui prend le take-out, tu as du monde qui mange sur place. T'as du monde qui prennent leur temps de manger avec leur famille. Puis t'as du monde qui mange vite pour crisser leur camp. La musique, c'est la même chose. Même. T'as du monde, tu vas sortir un album, ils vont prendre le temps. Là. Ils vont s'allumer une petite chandelle. Là. Ils vont aller se faire couler un bain, man. Ils vont se fermer les yeux, ils vont écouter ton album. T'as du monde qui vont être dans le char là, pour être ravis le matin, puis ils vont skipper les tonnes aux 10 secondes jusqu'à temps qu'ils n'entonnent une cam. Tu comprends? Toi, tu peux créer un produit, mais tu peux pas choisir comment chaque personne va le consommer, où, quand, comment. La seule affaire que tu as le contrôle dessus, c'est ce que tu peux faire, ce que tu peux créer, ce que tu peux offrir comme produit, puis essayer de le faire connaître du mieux de tes capacités. Mais il reste que le marketing, c'est important. T'sais. Kanye West, là, vous avez vu sa pub pendant le Super Bowl?
Non, je pense pas.
Je l'ai vu, mais là, vite de même, ça ne me revient pas à tête.
Okay. Il a fait une pub au Super Bowl avec son téléphone. Et une pub au Super Bowl, c'est 7 millions US, ça coûte, là, juste pour le spot publicitaire. Fait que ça, dis-toi que ça, c'est pour avoir le spot, mais tu payes en plus pour faire une pub. Là. Lui, ce qu'il a décidé, c'est, je vais payer 7 millions, mais je vais m'enregistrer avec mon téléphone, parce que déjà, 7 millions, c'est de l'argent investi. T'sais. Fait que dans sa pub, là, il est dans un taxi, je pense, ou dans une auto, là, puis c'est filmé iPhone, là, il fait noir. Là, ça peut pas être plus mal fait que ça. Là. Puis genre, comme, hey, salut, c'est Kanye. Juste pour vous dire, là, mon équipe a mis tout l'argent sur la fameuse pub. Et il reste plus une scène. Fait que j'ai décidé que j'allais me filmer avec mon téléphone pour vous dire que vous pouvez aller sur Yeezy.com. Puis genre, je vends des choses. Fait que Yeezy.com, guys, that's it. Puis le lendemain, il a vendu pour genre 20 millions. Pourquoi? Un, c'était on-brand. Parce que tu t'attends à des affaires bizarres de Kanye. T'sais? Fait que c'était on-brand. C'était relatable. Il y avait une histoire, il y avait un storyline. C'est genre, guys, je fais ça à cause de ça. Fait qu'il y a comme un angle que c'est drôle, c'est clever.
C'est quasiment humoristique. Là.
T'sais? Puis, dans le fond, il a mis 0$ sur le produit, qui est la pub. Puis, il a mis 7 millions sur la promo. Lui, ce qu'il s'est dit, c'est « Je veux qu'il y ait le plus de monde qui sache que j'ai quelque chose à vendre. » Puis, il montre même pas son produit dans son annonce. Là, tu vois juste sa face. Il montre pas des choses ou whatever. Lui, s'est dit « Moi, j'investis dans le message, l'awareness. Je veux créer l'awareness. » Fait que, tu sais, faut que je choisisse un peu en business. Est-ce que je mets tout mon argent dans le produit? Tu sais, combien de monde est-ce là, qui font des clips à 10 000 $ qui n'ont pas une crise de scène pour faire rouler des ads sur YouTube avec? Là? C'est genre, à la limite, fait l'inverse. T'sais. Parce que là, tu vas avoir 1 000 streams. Ça revient cher, là, ça revient cher la views. Là.
Ton produit est bon, mais il y a 1 000 personnes qui le voient, tandis que tu peux avoir un produit peut-être un peu moindre, mais reach 1 million de personnes.
Tu sais, tantôt, là, quand on parlait de chiffres, là, tu te dis, ah, tu sais, le monde, des fois, il se fie là-dessus. Mais c'est ça qui est plate. Tu vas voir un clip qui a juste 1 000 vues, là, même si c'est un esti de bonne tonne, super bien tourné, juste parce qu'il y a 1 000 vues, il y a du monde qui vont dire, bah, d'après moi, ça doit pas être bon.
Il se fie à l'opinion.
Mais là, tu vas voir 1 million de vues, tu vas faire comme, hey, ça doit être bon aussi, 1 million de vues. T'sais. Même si, admettons, c'est des vues qui étaient sponsored et tout. Là,
ça l'influence un peu notre jugement et notre perception.
T'sais, d'où pourquoi le branding et la promo, c'est si important que ça. Fait que, tu sais, moi, ce que je conseille aux artistes qui nous écoutent en ce moment, c'est pensez pas juste à l'art et à créer. Tu sais, oui, ça prend un bon produit. Oui, ça prend de la bonne musique. Ça prend plus que ça, par contre. Essayez de penser à OK, comment je fais pour faire connaître ce que je fais. Moi, personnellement, j'ai ma petite règle perso là, qui fonctionne pour moi. Parce que je dis tout le temps, pour 1 heure de création, de produit, OK? Ben mets 1 heure de création de contenu puis 1 heure de promotion. Fait que tu fais 1 heure en studio pour créer de la musique, mais prends 1 heure de ton temps aussi à savoir comment tu vas marketer ça. Puis 1 heure pour le marketing. Fait que tu sais, si tu passes 40 heures dans ton mois à créer de la musique, mais que tu passes 0 heure à penser à comment la marketer, puis 0 heure à le faire. Ben, il ne faut pas que tu t'attends à des miracles.
Hein? Mmh, t'as bien raison. Puis pour revenir un peu sur notre discussion, là, tu nous parlais tantôt, tu sors de l'école de show business, tu te fais un contact, il y a un bon timing. Là, tu arrives à l'extérieur de ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là jusqu'au point où tu rencontres le premier artiste avec qui tu travailles? C'est quoi qui se passe là-dedans?
Écoute, j'avais signé 2 personnes en même temps. Un producer et un rapper qui s'appelle Swift Kid, qui est un gars de Ville-Saint-Laurent, Quartier-Ville. Puis, fun fact, man, comme il y avait un track qu'il a fait, qui a comme méga blow-up. Quand que je l'ai rencontré, là, il était pas connu, là, tu sais, je veux dire, comme il était un up-and-comer. Mais il avait vraiment la crise de la bonne musique. Puis là, il me dit, ah, je m'en vais à New York, chez de la famille, travailler sur un mixtape. C'était bien populaire, les mixtapes à cette époque-là. Probablement, ma grand-mère n'avait 3-4 d'enregistrés, je ne savais pas. Chris, tout le monde avait ça. Là, mais c'était. Même comme aujourd'hui, tu sais, dès qu'il y a quelque chose qui marche, tout le monde, ils se disent, peut-être que ça va marcher pour moi aussi. Fait que ça va à New York, ça va faire son petit mixtape. Il revient, peut-être à la fin de l'été. Là. Puis là, il me dit, yo, Pat, j'ai fait un track. Genre, j'ai trouvé j'étais dans l'auto de la soeur d'un de mes amis. J'ai entendu un track. Il savait pas c'était quoi. J'ai cherché sur YouTube. C'est un dude qui s'appelle Laurent Weary. C'est un DJ belge. Il y a une toune qui est sortie de genre 1 an ou 2. Puis il dit, man, il y a un bout dans la toune après le refrain que c'est juste instrumental. Je l'ai coupé, j'ai loupé, j'ai rappé par-dessus Flowrider style. Puis là, man, comme le gars, il adore la toune et veut la présenter à son label, t'sais. Ça a été random de même. Je négociais le deal. Puis là, au début, c'était juste lui sur la toune. Puis on avait fait un vidéoclip à 250$ de bootleg, mon gars, là, comme tu créerais pas à ça. Là. Ça avait l'air Trippy Red avant Trippy Red existe. Là.
C'était avant-gardiste.
Ah ouais, c'était ghetto. Là. C'était vraiment mal fait. Là. Mais on n'avait pas de budget. Puis c'était bien une bonne franquette. Puis. Quelques mois après, on a réussi à placer la toune sur une couple de petits labels partout à travers le monde. Là, on a eu un budget pour faire un clip un petit peu plus hot. Après ça, de là, on a été chercher des deals avec des majors. Fait que là, on était rendu avec, admettons, un Warner en Angleterre. On avait Atlantic Records aux États-Unis. Fait que là, ils ont fait comme fuck, on mettait un feature sur la toune. Puis t'avais Dev qui venait de faire Like a G6 avec Far East Movement. Fait que là, on a fait comme fuck, man. Ça a l'air qu'elle veut collaborer avec du monde, elle, puis tout. La toune, ça me fitrait là-dessus. Fait qu'elle a accepté d'être sa track. Puis moi, ça faisait juste 6 mois, là, j'avais fini mon cours à l'école. Là. Puis j'étais genre à Los Angeles, en train de tourner le clip, man. Puis j'étais comme, ça va fucking vite, là, tu sais. Fait qu'on a réussi à faire de quoi de bien, puis de le faire vite. Ça a été fucking trop vite, par exemple. Parce qu'on n'était pas prêts pour la suite, là. Tu sais, on était vraiment go with the flow, parce que là, nous autres, on s'était fait un game plan de 5 ans, puis là, finalement, ça avait pris 5-6 mois, là, tu sais. Fait que, tu sais, quand on parle de timing, c'est que des fois aussi, le timing, on essaie de le contrôler, mais tu te rends vite compte que tu n'as pas vraiment tout le temps le contrôle que tu veux là-dessus. Des fois, c'est plus long que prévu. Des fois, c'est plus vite que prévu. Fait que c'est là que des fois, man, être organisé, puis de l'expérience, c'est payant. Moi, j'étais organisé, mais je n'avais pas l'expérience. Puis on n'avait pas de cash non plus, man. Tu sais, j'avais genre 25 ans. Là. J'étais jeune, là. J'avais pas 50 000 dans mon compte de banque pour pouvoir dire, comme, yo, je vais aller m'engager des producers, puis tout, là. C'était comme, non, man, on se revient de bord, on essaie de trouver des façons de faire. Mais tu sais, on a réussi quand même de quoi de cool. Puis avec ce tonne-là, je pense, fin 2011, début 2012, là, on était 99e tonne la plus jouée sur la planète à radio. Ici, à Montréal, on avait joué 3 fois à nuit MC Mario, man. Shout-out MC Mario. Il avait joué la tonne 2-3 fois, là. Mais je te dis, en Australie, mettons, là, c'était à l'enfer, là. On jouait aux 5 minutes là, à la radio là-bas, puis plein d'autres places. Fait que, tu sais, ça a été une ascension vite, mais ça a été une redescente vite aussi, tu sais, parce que autant que tu peux pas contrôler tes home runs, tu sais, tu peux pas contrôler non plus soit tes échecs, ou même des fois, c'est pas tes échecs, tu sais, c'est juste la vie, là, tu sais. Moi, l'artiste, il est arrivé quelque chose de personnel, je vais pas dire quoi, parce que il n'en a jamais vraiment parlé publiquement, mais il est arrivé quelque chose de personnel de vraiment grave dans sa vie qui a fait qu'il a comme vraiment perdu beaucoup de motivation à ce moment-là, puis il en avait fait une dépression. Non, c'est pas une peine d'amour là, pour ceux qui se demandent, là, mais c'était quelque chose de bien plus grave que ça. Je ne vais pas dire que c'est pas grave des peines d'amour, mais c'était quelque chose de vraiment hardcore. Puis, tu sais, moi, du jour au lendemain, écoute, on avait des gros deals. Là. Moi, j'avais 25 ans, moi, je suis comme fuck. Publishing deal avec EMI UK, qui était le 4e major label de l'époque. On avait des record deals, man. On avait record deal aux States, en Australie. On se faisait inviter, man. On avait été au party de Noël de Warner en Australie. T'sais, comme moi, dans ma tête, j'étais comme, bro, guys, moi, je
suis... T'es up, là.
Moi, je suis good for life, là, tu sais. Puis là, moi, je disais à ma blonde, OK, là, c'est le temps de l'avoir, notre premier enfant. D'un coup, à la conception, man, j'étais là. Puis au delivery, comme tout avait... fall down, tu sais, puis là, c'était comme un rebuild. Bon, ben là, faudrait que je trouve des nouveaux artistes, faudrait que je refasse des choses. Fait tu sais, l'expérience, ça compte pour énormément dans ce travail-là. Puis, je te dirais, être capable aussi de handle la pression, de handle le stress, être capable d'être patient, puis être capable de faire des sacrifices aussi, tu sais, parce que comme je dis, tu peux faire home run aujourd'hui, puis tu sais, t'as du monde là, qui sont sur un streak, là, qui gagnent souvent, puis tu sais, la journée qu'ils perdent, ils perdent tellement confiance en eux, parce que là, tout d'un coup, ah man, j'ai une défaite, là, je vais peut-être en avoir une deuxième, puis une troisième, tu sais. C'est comme en affaire, man, faut que tu réalises que tu vas avoir des bonnes puis des moins bonnes journées, puis je pense que la vie, c'est ça en général, tu sais. Moi, je vois ça comme la grande roue. Tu sais, quand t'es en bas... c'est pas là.
Tu regardes en haut.
Quand t'es en haut, c'est le fun. Mais tu sais, quand t'es en haut, que si tu profites pas du paysage, un moment donné, tu vas être en bas et tu ne verras plus. C'est juste, tu sais pas combien de temps dans la vie t'es en haut, combien de temps t'es en bas, mais il n'y a rien qui est éternel. Fait que, tu sais, moi, je me dis, quand je vis du stress, quand je vis un moment difficile, c'est pas éternel. Puis il faut que je garde la tête haute. Puis quand que j'ai du succès, faut pas que je rentre dans la pièce et je fasse comme. I'm the boss. Parce que ça aussi, c'est peut-être pas éternel. Puis peut-être que demain, ça sera plus là. T'sais. Fait que je pense que ça, c'est un message important que je dirais aux artistes. T'sais, comme si aujourd'hui c'est tough dans votre carrière, si aujourd'hui vous dites, hey man, ça fait longtemps là, que j'essaye, il y a tellement d'artistes qui réussissent, puis des businessmen en général, puis on a appris à les connaître hier, parce qu'on ne les connaissait pas avant, fait que là on se dit, ah, tu gars, lui il est nouveau, puis le gars, lui ça marche, mais. Et Chris, tu sais pas, des fois, ça fait 10-15 ans que ce monde-là, il grind à essayer d'être connu. Tu sais, fait vous n'êtes pas tout seul à trouver ça difficile. T'sais, souvent, dans les anciennes générations, on vendait du rêve comme quoi notre carrière, nous autres, c'est tellement facile, on gagne tellement tout le temps. Mais souvent, les meilleurs gagnants, c'est aussi les meilleurs perdants. Mm-hmm. Souvent, tu as perdu, tu as manqué ta shot souvent avant de la réussir. T'sais. Fait que pour les artistes en ce moment qui nous écoutent, ou ceux qui ont des projets business quelconques, là, comme si aujourd'hui c'est une mauvaise journée, couche-toi de bonheur. Couche-toi de bonheur parce que le plus que tu es en forme demain, le mieux que tu vas pouvoir changer ta vie demain. Puis peut-être qu'après-demain, ça va être autre chose. T'sais. Fait que tes mauvais jours sont pas éternels. Tes meilleures journées sont pas non plus. Fait que il y a cette balance-là. T'sais. Fait que lâchez pas, guys.
Apprendre de tes erreurs hein, aussi quand tu n'as pas des bonnes journées. Des fois, il y en a qui vont juste s'apitoyer sur leur sort, dire tabarnak, est-ce que c'est pas bon, est-ce que je suis pas bon, whatever, puis ils vont sombrer là-dedans. Mais pourquoi que ça s'est mal passé? T'sais, juste d'être analytique, un peu de réfléchir, tu as peut-être fait des erreurs là, puis là, au moins de l'avoir fait, si tu es capable d'apprendre de ça, ben demain, tu vas être meilleur. Puis je pense que c'est ça aussi, comme tu dis, dans une business, dans la vie ou juste en carrière artistique, c'est un peu la même chose. Il y a des fois que ça va mal se passer, tu vas vivre des échecs, mais d'apprendre de ça puis te relever le plus rapidement possible pour avancer, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder de tout ça parce que ça va jamais aller parfaitement tout le temps. Il n'y a aucune vie qui est bâtie comme ça puis qui ça existe
non,
pas.
Puis c'est souvent c'est un mensonge. Il y en a qui veulent projeter ça. Mais tu sais, tu parles de porter attention à tes échecs. Tu peux porter attention à tes bons coups aussi. Parce que, tu sais, si t'es bon coup, tu fais juste les enjoy puis dire comme, yo, moi, j'ai réussi parce que je suis le meilleur. Oh, ça, c'est de la merde. Là. Ça, c'est de la merde. Parce que la journée que tu vas avoir un échec, là, tu vas penser que t'es plus le meilleur. Ça va fucker ton mental. Tu vas dire, ah non, peut-être que là, je suis plus à mode, je suis played out ou whatever. Je suis
mon temps fort.
Tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est comme, souvent, on a du succès pour une raison précise. Prends le temps de disséquer ça aussi. Pourquoi ça a marché? T'sais, pay attention. T'sais, essayez de porter attention aux détails de pourquoi ça a marché plus que telle autre affaire. T'sais. On a tellement de data aujourd'hui, on a tellement aussi d'observations personnelles qu'on peut faire juste en regardant, en comparant nos propres trucs, que si on ne prend pas le temps de le faire, ben t'sais, c'est nous autres qui est perdants là, au final. Là.
100%. Puis question rapide pour toi, Pat. Pour un artiste là, qui dirait, tu dirais c'est quand en fait, à ton avis, qu'un artiste aurait besoin d'un gérant d'artiste dans sa carrière? À partir de quel moment tu dirais ou qu'est-ce qu'il a accompli?
Premièrement, je te dirais, il faut définir le travail d'un gérant d'artiste.
Mm-hmm,
il y a beaucoup de monde qui ne savent pas c'est quoi le travail d'un gérant puis qui pense que oh, tu signes avec un gérant, puis là, si j'ai un bon gérant, je vais avoir une bonne carrière. Puis tu sais, on n'est pas des gatekeepers, là. Comme honnêtement, si moi j'avais le moyen de signer quelqu'un puis garantir une carrière, Chris, pourquoi c'est lui qui ferait plus d'argent que moi? Là, c'est même pas une question d'argent, mais c'est une question de logique. Tu sais, si j'avais cette possibilité-là, ce pouvoir-là, premièrement, c'est ben trop de pouvoir pour un être humain, là, soit dit en passant. Là, fait que la job d'un gérant, c'est de protéger les intérêts de son artiste. La job d'un gérant, c'est d'accompagner, d'aider dans le développement. C'est plein d'autres choses qui n'ont pas rapport avec notre job. Là, souvent, si on est des psychologues, man, puis on fait plein d'autres affaires par rapport, là, mais on est là comme un support. Puis moi, je me vois comme des stéroïdes. T'sais. Bon, j'ai pas la shape d'un gars qui va au gym, là, mais je veux dire, si tu prends l'analogie, mettons. Tu peux prendre les meilleurs stéroïdes qu'il n'y a pas sur la terre. Si tu ne vas pas au gym, tu vas avoir la même shape demain, puis après-demain, puis après-demain, right?
100%.
Mais si tu y vas, tu t'entraînes comme une brute, mais tu vas voir des résultats encore plus gros que si tu ne prendrais rien. Là.
Ça l'amplifie le travail.
Fait que, tu sais, nous autres, on est là pour amplifier, justement. Tu sais, fait que si quelqu'un travaille fort, ben là, on peut aller faire quelque chose. Mais, tu sais, s'il n'y a pas de résultat, tu sais, quelqu'un qui n'a rien fait encore, qui n'a jamais sorti une chanson, qui n'a pas d'expérience, tu sais, qui part de zéro, ça se peut qu'il y ait déjà un petit beau potentiel. Puis toi, en tant que gérant, tu l'écoutes, tu fais comme, hey man, ça, là, ça a vraiment du potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire que moi, je peux vraiment faire pour t'aider. Tu sais, peut-être qu'il faut juste attendre que tu sois un peu plus prêt pour que là, je peux mettre des affaires en place. Tu sais, tout est une question de timing. Puis souvent, les gens, tu sais, ils pensent que les étapes, c'est bon, il faut que je me trouve un gérant. Puis là, le gérant va m'aider à trouver un record deal. Tu sais, mais c'est comme...
Il faut qu'il y ait un parcours déjà pour pouvoir l'amplifier. Tu peux pas amplifier zéro à 100. Là,
t'sais. Ben, tu sais, c'est une question de développement. Tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Si moi, je travaille avec... Mettons, toi, là, demain, tu décides, moi, je vais être un rapper. Tu me fais un freestyle. Je fais comme, fuck, ce gars-là, il rappe bien. Ça se peut que j'ai déjà des connects avec une couple de producers, avec une couple de studios, puis que tu as un peu de budget. Puis je suis capable de t'indiquer... des petites directives, des petites directions de ce qu'on pourrait faire pour monter ton profil un peu. Mais ça, c'est tout du développement. Puis là, mettre ça en place, le commercialiser, le rentabiliser, ça va peut-être être 2 puis 3 ans. Réalistiquement, man, il y a 24 heures dans une journée. Si moi, je te donne 2-3 ans de ma vie à te développer, peu importe combien d'heures par semaine, c'est sûr que je ne pourrais pas faire 40 heures à te développer s'il n'y a rien vraiment. Mais tu sais, c'est énormément d'heures puis c'est pas payant encore. Fait tu es un gérant, tu sais, tu peux pas juste être avec des artistes en développement. Tu as besoin d'avoir une balance parce que sinon, comment tu fais pour vivre? T'sais? Fait que c'est un peu comme une équipe de hockey. Tu as besoin de ton premier trio, mais tu as besoin aussi de ton trio numéro 2, ton trio numéro 3. Tu sais, fait que faut que tu crées une balance où est-ce que tu t'assures de gagner, tu sais, au final. Quand tu commences comme gérant, souvent, tu n'as pas accès à ceux qui génèrent déjà de l'argent. Tu sais, faut que tu fasses tes preuves, faut que tu fasses tes contacts. Fait, c'est sûr que c'est un métier qui est tough autant pour le gérant que pour l'artiste au début parce que personne ne fait de l'argent, là, ou pas assez pour en vivre, du moins. Tu sais. Fait que c'est le temps de mettre les choses en place. Fait, c'est un métier qui est quand même assez long parfois. À arriver à un niveau que tu peux vraiment bien en vivre parce que c'est petit quand même le Québec. Tu sais. Fait qu'il y en a des fois qui vont bien en vivre parce qu'ils vont être gérants, mais aussi ils vont avoir une coupe d'air here and there ailleurs, puis ils vont être capables d'arriver là, à la fin de la journée. Mais tu sais, c'est sûr que le côté développement, les gérants qui ont de l'expérience, des fois, ils ont peur un peu de ça parce qu'ils se disent. Hey, c'est énormément de travail, puis il n'y a rien qui est garanti. T'sais. C'est pas parce qu'un artiste il a un potentiel qu'il va prendre les bonnes décisions. C'est pas parce qu'il y a un potentiel que le public va connecter avec. C'est pas parce qu'il y a un potentiel que l'artiste va être capable de bien se commercialiser. T'sais, moi, j'en ai géré des artistes, puis il y en a qui c'était comme sont bons, mais si tu fais un album aux 2 ans, c'est dur pour moi de te développer si tu n'existes pas. Pas assez, tu sais, ou si tu veux pas faire de contenu sur tes réseaux sociaux, moi je peux pas le faire à leur place, t'sais. Même si je leur dis, hey, faudrait que tu en fasses aujourd'hui, tu sais, comme je peux pas le faire à leur place, tu sais, ultimement.
Non, non, le travail faut qu'il soit fait, puis faut qu'il y ait de l'énergie derrière, puis tu sais, ça tu peux pas le donner, toi tu peux juste amplifier ce qui est déjà, mais tu crées rien pour personne.
T'sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est quoi le bon moment, tu sais, je te dirais, le bon moment, c'est. Tu sais, il n'y a pas de mauvais moment pour approcher un gérant, mais je pense que toi, en tant que personne qui approche, il faut que tu sois réaliste que...
Qu'est-ce que tu as à offrir?
Si tu n'entends pas la réponse que tu veux, ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'es pas bon. Ça veut peut-être juste dire que qu'à pour l'instant, il n'y a rien de concret que je peux faire pour toi, mais reste focusé dans tes activités, puis éventuellement, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. T'sais. Souvent, les noms... C'est des noms actuels. C'est comme aujourd'hui, c'est un nom, mais peut-être demain, ça va faire du sens. Peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans un an. T'sais. Fait que faut pas se décourager et penser que ah, c'est ultime. Là, il m'a dit non, jamais je vais pouvoir travailler avec lui. T'sais.
100%. Puis souvent, une autre question pour toi aussi, j'entends des fois les artistes qui disent « Ah, c'est vraiment important que mon manager soit en studio avec moi quand j'enregistre. » Puis on parlait justement off-cam un peu tantôt la gestion du temps, puis que c'est important, il faut savoir gérer son temps. Est-ce que c'est vrai, ça, que le gérant d'artiste, c'est mieux qu'il soit là avec son artiste? Il y en a qui disent que « Ah, ça dérange vraiment pas, je peux faire ma musique sans. » Toi, c'est quoi ton take par rapport à ça?
Moi, c'est bien rare que je vais être en studio, puis c'est bien rare que je suis dans les shows. Premièrement, je suis pas un gars qui aime les shows. Même d'aller voir d'autres artistes en show, j'ai jamais capoté là-dessus. Je suis un gars, j'aime la musique. Fait que, tu sais, moi, j'aime, quand j'étais jeune, c'était le feeling de déballer un album, découvrir la chanson. Puis souvent, ben tu vas voir le show, puis c'est pas aussi bon que l'album, soit le son, soit même l'artiste. Fait que, j'ai pas... non plus ce besoin jet-set-là de me faire voir avec des artistes puis d'aller chiller backstage puis show-off. Comme... Tu sais, il y en a qui veulent ça. Tu sais, t'as plein de gérants, de label owner qui auraient voulu être populaires, auraient voulu être des artistes, mais ils n'avaient pas le talent. T'sais. Fait qu'ils veulent vivre leur rêve à travers le talent d'autres mondes. Tu sais, genre, Diddy qui était partout dans les
tours. J'avais son nom sur le bout des lèvres.
Mais tu sais, on le voit aussi au Québec, là, on le voit dans tous les pays. T'sais. Moi, personnellement, comme je dis tout le temps à l'artiste, écoute, si c'est important, je suis là, je vais être là. S'il y a du networking à faire, s'il faut aller te représenter et on n'est pas trop sûr que ça va bien aller là-bas, je vais être là. Sinon, si je suis juste là pour aller prendre 2-3 bières là, puis me coucher à 3-4 heures du matin, commencer ma journée demain à midi à 1 heure, ma journée est scrap demain, fait que c'est quoi qui est mieux pour toi? Que je me pète la gueule au bord ou que je me lève de bonne heure demain puis je commence à hustle sur ta business, tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, faut choisir son temps. Après ça, est-ce que c'est important que le gérant soit en studio? Ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'à mettons, là, si je gère une fille puis que je l'envoie en studio avec des gars puis je connais pas les gars, tu sais, il y a un côté sécurité qui est important. Si je l'envoie avec des gens de confiance, puis qu'elle se sent en confiance, OK, je peux la laisser toute seule. Si elle, elle se sent pas en confiance, là, c'est voir est-ce que j'y vais, est-ce qu'elle s'assure qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle, tu comprends? Mais sinon, tu as le côté aussi, quand tu t'en vas en studio, puis tu travailles, mettons qu'on travaille ensemble, ben là, il y a des droits d'auteur. Tu sais, qui a écrit plus, qui a écrit moins, qui a travaillé sur le beat, comment qu'on se partage ça. Tu sais, des fois, tu as des artistes qui ont peur de se faire fourrer en bon québécois. Fait qu'il y a mieux qu'un gérant, une gérante puisse être là. Après, les artistes de haut niveau, ils vont pas triper que les gérants et les gérantes soient là. Parce qu'ils vont vouloir garder le côté plus créatif. Puis ils veulent pas qu'un gérant nowhere dise comme « Ouais, moi, je changerais tel mot. » Puis là, ils vont embarquer dans les splits de publishing puis tout le kit. Puis là, ça devient de la grosse guerre de « Moi, j'ai dit un mot, puis je n'ai mis trois. » Puis « Ah ben, moi, je n'ai dit un, mais là, OK, à mettons qu'ils décident de ne pas le garder, est-ce qu'on me donne un petit pourcentage symbolique ou pas? T'sais? Fait que ça peut vite partir de toutes les bords. Puis, tu sais, quand il y a trop de monde dans une pièce, des fois aussi, c'est, le monde va te regarder et vont faire comme. OK, mais.
C'est quoi que tu ajoutes dans cette
situation? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Pourquoi tu ne joues pas ta position? T'sais, on parlait de position tantôt, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, moi aussi, au début de ma carrière, de mettre l'artiste sur un piédestal. T'sais, moi, je viens de « Ah, oh, man, faut que tu trouves la perle rare. » Oh, c'est quoi la perle rare? Tu penses-tu qu'il y a un artiste que c'est la perle rare? Toi? Je pose la question aux deux.
Pas nécessairement, non. Comme tu as dit, il y a beaucoup le travail. Après ça, la mise en marché, si tu vas aller reach ton public, c'est du cas par cas puis c'est subjectif.
Mais là, on parle même pas de business. Là. On parle, là, genre, toi, en tant que fan de musique. Là. Okay? Admettons, tu prends... Moi, j'ai grandi avec Tupac, mettons. Tu dois avoir écouté du Tupac aussi dans ta vie.
Moi, je l'ai déjà dit sur la plateforme, mon top 3, c'est Tupac, Nas puis DMX.
Bon, ça, c'est un bon top, ça. Si tu prends Tupac, okay, y en a bien gros qui vont dire « Ah, man, moi, je veux me chercher un artiste comme Tupac. » Oh, ça y a pris une couple d'albums là, avant de devenir une superstar, Tupac. Il a fallu qu'il fasse des films aussi, tu comprends?
Ben oui.
Il a fallu qu'il soit en tournée avec des groupes. Il était danseur derrière des groupes avant même de pouvoir mettre sa voix sur un micro.
Fait que sur papier, c'était pas une perle rare quand on la regardait au début. Tu sais? T.I., son premier album, c'est un flop. Son deuxième album, avec une nouvelle compagnie de disques, avec Atlantic, il a blow up. Fait que si le même gars, avec une équipe différente, n'a pas le même résultat, c'est-tu le gars, la perle rare? C'est la compagnie de la perle rare? C'est-tu le monde qui travaille? Pour moi, la perle rare, c'est l'énergie.
L'ensemble.
C'est l'ensemble. C'est le bon gérant avec le bon artiste, avec le bon... Où est-ce que tout le monde a une vision commune?
C'est comme un couple. Ouais.
Tu sais,
une c'est... connexion.
Si tu es en couple avec quelqu'un, puis toi, tu veux des enfants, puis elle n'en veut pas, mettons. C'est sûr que ça va chier à un moment donné. Hein. Tu sais, fait que c'est la même chose avec la business. Tu sais, mais moi, je viens de cette éducation-là que hey, faut que tu trouves la perle rare. Fait que moi, je mettais beaucoup l'artiste sur un piédestal, puis j'étais un peu comme quasiment l'assistant de l'artiste où est-ce que là, tu es dans toutes les shows, puis tu es dans toutes les sessions, puis là, tu travailles un nombre d'heures infini sur la carrière de l'artiste. Tu travailles probablement autant d'heures, sinon plus, que lui en met dans sa carrière. Mais au final, c'est sa carrière. Tu comprends-tu ça? Mm-hmm. C'est pas 50-50, puis c'est pas genre, hey, demain, je m'en vais, puis je garde un pourcentage de ce business-là. Là. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est un artiste peut pas demander non plus la lune comme si on partageait une business ensemble, à moins qu'on en partage vraiment une ensemble. Là, ça va être différent. On va mettre des termes, on va mettre des rôles précis. Mais la vérité, c'est que si moi, j'ai quelqu'un, puis que demain matin, on se sépare, oui, on peut s'entendre que j'ai un petit sunset clause, puis je continue à toucher des cachets sur les affaires que j'ai bookées, qui n'ont pas eu lieu encore, puis tout, puis que, tu sais, je peux me retirer tranquillement, puis collecter les choses qui n'ont pas été reçues encore, qui me reviennent. Mais après, comme, moi, c'est fini, là. Puis l'artiste, lui, ben, il peut avoir un autre manager. Fait que, mettre sur un piédestal, je trouve que c'est pas la bonne chose non plus à faire, mais c'est une erreur que tous les jeunes managers font. Après, Steve Lobel, qui est un gars que je respecte beaucoup dans l'industrie, un gars de la même génération qu'un Rick Rubin, un peu. Steve Lobel dit tout le temps, tu sais, the coach lasts longer than the player. Fait que, tu sais, en tant que gérant, ça se peut que ton artiste, il y a une run de 4-5 ans qui est big, puis après ça, c'est done, puis toi, ben, tu vas en trouver un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Fait que, toi aussi, tu as une valeur. L'artiste, il a une valeur. Il a un talent. Toi aussi, tu as une valeur, puis tu as un talent. Puis c'est une combinaison de tout ça qui va donner un résultat. Fait qu'il faut se respecter, nous autres aussi, dans le processus, tu sais, puis se dire, regarde, j'ai pas le goût d'y aller à soir, puis ça sert à rien que je vais être là à soir. Fait que si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne à soir, demande à quelqu'un, si tu veux que je vienne, ben paye-moi pour y aller, man. Tu sais?
100%.
Puis même si t'as déjà un cachet de manager, parce qu'on s'entend, là, au début, l'artiste va faire des petits shows, va faire des affaires, ça sera pas payant, à un moment donné, ça devient payant, tu sais. Mais tu as ce qui s'appelle un tour manager, un gérant de tournée que lui, il va te suivre, il va être partout, il va s'assurer que tout soit correct au niveau de l'hospitalité, au niveau de tout le tech sur la tournée. Il y en a qui font les deux, il y en a qui font juste un des deux. Tu sais, après, je veux dire, moi, si c'est un show important, comme je te dis, je vais y aller. Mais si c'est un show pas important, même si je fais ma cote, comme là, j'ai le droit d'avoir mon samedi soir, moi aussi, là. Mm-hmm. Puis si ça n'amène rien ma présence là-bas, à part qu'on va boire 4-5 bières puis qu'on va se craquer des jokes dans le green room. Comme.
Ton travail, toi, de toute façon, il est beaucoup plus à l'extérieur du studio, à l'extérieur des shows, pour justement qu'il y en ait un prochain show où que l'artiste persévère. T'sais, c'est pas nécessairement au moment même. Toi, t'es plus dans le futur que dans le moment même.
Mais quand tu commences, tu vas souvent, même l'artiste, là, porter plusieurs chapeaux. Tu sais, t'as pas le choix. Parce que t'as pas d'équipe, t'as pas le budget pour t'engager une équipe. Puis souvent aussi, quand tu génères pas de revenus, ben, y en a qui vont dire, ouais, je sais pas si je veux m'embarquer dans ce projet-là, parce que je sais que ça va peut-être prendre un an, deux ans avant que ça paye. Fait que je vais attendre dans un an, deux ans pour venir voir. T'sais. Ça, c'est une réalité aussi. Là. Fait que, tu sais, quand tu joues plusieurs chapeaux en tant qu'artiste, mais ton manager souvent aussi, tu sais, moi, Naya Ali, là, quand je l'ai découvert, là, t'es pas connu. Là. Fait que c'est moi là, qui avais été chercher ses premières playlists éditoriales, puis qui avait été chercher la première avec Complex pour son clip, pis ci, pis ça, pis tu sais, comme jouer un peu le rôle d'un relationniste de presse aussi, dans le sens que j'avais une couple de contacts, mais j'ai dit, je vais reach out mes contacts. Mais ça, là, en réalité, c'est du bonus. Toi, tu as des contacts, toi, tu as des contacts. Tu peux décider d'utiliser tes contacts, mais tu sais, on ramène ça à la vie normale, là. Chris, peut-être tu sais peinturer, là. Ça ne veut pas dire que tu vas t'ouvrir une compagnie de peinture demain. Là. Fait que, moi, en tant que gérant, j'ai 4-5 contacts, mais je ne suis pas un relationniste de presse. Tant mieux, j'ai été capable d'en chercher un peu, puis on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a au début. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est bâtir une équipe. Fait que d'un coup, il y a de l'argent qui rentre. Là, tu veux un vrai spécialiste de chaque discipline, de chaque élément que tu as besoin dans ta carrière, t'sais. Mais il faut commencer à quelque part. Puis c'est là que c'est tough au début, c'est de mettre la main à la pâte puis de t'improviser plein de choses que tu n'es pas finalement. Là, mm-hmm. Donc ça fait partie du processus. C'est qu'on le veut ou qu'on ne veut pas quand on commence.
C'est plusieurs chapeaux, ben ouais.
Ben ouais.
Puis, c'est quoi tu dirais, mettons, au jour le jour, ton travail de gérant d'artiste, c'est sûr, les journées sont différentes, là, je mets ça grosso modo, mais pour donner un exemple, là, c'est quoi le travail qui doit être fait au jour le jour, c'est quoi que tu fais? Là,
making shit happen, bro. C'est juste ça que je fais, man. Tu comprends? C'est comme... Une grosse partie de ma job, c'est régler des problèmes. Une autre grosse partie de ma job, c'est m'arranger qu'il n'y en ait pas. Fait que c'est d'essayer de penser déjà, OK, là, on s'en va, on va faire tel projet, tel album. Là, tu essaies de penser à tous les problèmes que tu peux avoir. Fait que là, tu essaies de les régler d'avance. Fait, OK, telle personne, c'est compliqué quand on travaille avec. Là, on va s'arranger et donner le contrat d'avance. Puis, c'est tout bien négocier les affaires. Tu sais, c'est beaucoup de temps d'organisation, de préparation. Mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que la job d'un gérant, c'est plus glamorous que ça. T'sais. Que genre, c'est des gros soupers, c'est des gros 5 à 7, pis tout. Tu sais, moi, man, ma journée, je veux dire, comme je suis beaucoup au téléphone, je suis beaucoup à répondre à des emails, je suis beaucoup en train de planifier des choses, faire des documents, lire des contrats, tu sais. J'aime ça. Puis c'est sûr que aussi, tu sais, moi, je suis un gérant, mais j'ai un côté très A&R. Fait que moi, le côté musique est bien important pour moi aussi. Fait que, tu sais, les tunes, souvent, je vais les écouter d'avance. Je vais essayer de voir si on peut les améliorer. Est-ce que la structure de la chanson est correcte? Est-ce qu'il manque quelque chose? Fait que, tu sais, j'ai le côté créatif que moi, je suis pas capable de créer de la musique, mais j'ai un côté réalisateur. Parce que, tu sais, Rick Rubin, tu parlais de lui tantôt, Rick Rubin, là, il sait pas faire de la musique, là. Mais il est capable d'écouter et de dire, « Ah, ça, c'est pas assez bon. Ça, faudrait le changer. Telle parole, ça clash. » Tu sais, il réalise.
Producteur exécutif, si je me trompe pas.
Ben, c'est un réalisateur, tu sais. Okay. Producteur exécutif, tu sais, c'est... Oui, ils vont prendre des décisions exécutives, mais c'est beaucoup sur les finances, c'est beaucoup sur l'équipe et tout. Tu sais, moi, je te dis, c'est plus comme un travail A&R, où est-ce que, tu sais, c'est la direction artistique. Tu sais, certains projets, je vais faire un peu plus. T'sais, avec Naya, avec Domino aussi, je faisais comme producteur exécutif. Puis, j'avais des responsabilités de gestion de budget, de gestion d'équipe. C'est qui l'être humain qui va être employé pour faire telle tâche. T'sais. Mais, pour vrai, mes journées sont bien chargées. Oui, j'ai des moments de... OK, c'est un gala, c'est un ça, mais ça, c'est les journées que j'aime moins, pour vrai. Il y en a que c'est ça qui les drive, tu sais. Moi, aller là, faire mon petit sourire, shaker des mains, tout le kit, comme... Moi, c'est pas ça qui me drive, tu sais. J'aime mieux être chez nous, travailler, voir mes kids. Tu sais, chacun ses motivations, chacun ses buts. Moi, à la fin de la journée, c'est pas le look qui est important, c'est les vraies choses. Ouais, c'est
ben oui, 100%, je suis d'accord. Puis, je suis curieux de savoir aussi, un gérant d'artiste, ça va capitaliser comment? T'sais, souvent, on a la croyance que le gérant d'artiste va faire souvent un 15%, 10%, 20% sur les shows qu'il va amener à l'artiste en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? J'imagine que oui, bien évidemment, mais c'est comment qu'on va être capable de capitaliser comme ça en tant que gérant d'artiste, surtout quand tu parlais justement au début qu'on investit beaucoup de temps puis que pas nécessairement on va avoir du profit au début, mais que ça vient avec le temps. C'est quoi, c'est mm-hmm. où les opportunités de capitaliser pour un gérant d'artiste?
Ben, je pense que premièrement, il faut dire qu'il y a un petit côté ingrat dans le côté capitalisation, c'est que souvent, je ne dis pas c'est tous les artistes, là, mais c'est un milieu où est-ce que plus que l'artiste fait du cash, plus qu'il veut que le pourcentage descende. Parce que là, à un moment donné, il fait comme Chris, je fais 20 millions, man. 20% de 20 millions, c'est de l'argent. C'est comme oui, mais pendant 5 ans, tu ne gérais pas une crise de scène, puis je faisais le travail pareil. Mm-hmm. Fait que toi, tu ne vas pas venir le voir au bout de 5 ans et dire bon, là, j'aimerais ça qu'on mette ça à 30% parce que j'ai travaillé 5 ans gratuit, tu sais. Fait que ça, c'est déjà un côté qui est toujours touché. Tu sais, le fameux pourcentage. Puis il y a la réalité aussi locale, tu sais. Je veux dire, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a plus de population. Fait que tu sais, déjà là, un gérant, en moyenne, c'est 20%. C'est sûr que les artistes qui génèrent énormément d'argent, eux autres sont capables de dire bon, ben, regarde, moi, je connais quelqu'un qui veut me le faire à 15, je connais quelqu'un qui veut me le faire à 10. T'sais. Fait qu'après, c'est à toi de voir si, en tant qu'artiste, tu as le goût de prendre le risque d'aller avec un autre gérant qui va peut-être pas te donner le même service pour sauver un 5% ou un 10%. T'sais. Là, c'est de la relation être humain, c'est de la relation personnelle. T'as des gérants comme moi qui sont très day-to-day. Genre, moi, le monde que je gère, c'est comme ma famille. Là. Genre, on est proches. T'as des gérants que, man, à chaque fois que t'appelles, là, ça répond pas. Des fois, tu vas être 2-3 mois sans leur parler. Puis quand t'as un appel, ben, c'est genre l'assistante. Puis c'est jamais la même personne. Puis tu sais, comme. Moi, il y a un gars que je gère, il était géré par le manager Justin Timberlake. Puis il a arrêté de travailler avec lui parce qu'il dit, comme Chris, moi. J'aimerais ça parler à mon gérant plus que 4 fois par année. Fait que, tu sais, c'est... Oui, je suis pas un gars qui gère Justin Timberlake. J'ai pas ça à offrir. Mais lui, il a eu ça, puis s'est rendu compte que hey, c'est bien beau de travailler avec les gros noms qui font plein de cash, puis qui sont bien big, mais check comment ils te traitent comme... T'sais, si j'ai du temps, je vais t'en donner un peu, tu sais. Fait que, oui, au Québec... Puis même aux États-Unis, tu sais, généralement, c'est du 20%. Dans certains cas, ça va être un petit peu moins si c'est négocié. Mais après ça, il faut que ça fasse du sens. Mm-hmm. Moi, si un artiste ne fait pas d'argent, mettons tu gères 100$ avec ta musique cette année, même si tu me donnes 100%, bro, je veux juste 100$. Tu sais, fait que des fois, le monde, il kick sur un pourcentage comme « Ah, bro, man, le gérant, il veut 25%. » Combien d'argent t'as fait avec ta musique à date? Zéro. Ben ferme ta gueule. Tu fais rien.
Tu veux en faire plus?
T'as quelqu'un qui est prêt à potentiellement faire zéro, même si tu lui donnes 25%. Exact. Parce qu'en ce moment, ton argent, c'est zéro. Fait que, clairement, si tu veux cette personne-là dans ta vie, c'est parce que tu espères être capable éventuellement de faire des revenus. Puis là, la journée que tu vas faire des revenus, t'es pas prêt à rémunérer cette personne-là 25% quand en ce moment, même si tu gardes tout ton argent, t'as zéro, c'est pas logique, t'es pas un bon businessman, comme rachez-vous, bro, tu sais, c'est pas pour toi. Fait que, tu sais, souvent les gens, ils vont pas s'attarder aux bons détails. Après, si tu fais 1 million par année, puis tu dis, moi non, j'ai besoin d'un nouveau gérant, puis ça marche plus que mon gérant, puis je suis prêt à donner juste 10 ou 15%, peut-être que dans l'ensemble des tâches, puis le nombre d'heures que ça demande, peut-être que c'est totalement réaliste, peut-être que ça l'est pas. Fait que, tu sais, c'est pour garder tout ça aussi. Mais une petite correction que je ferais, c'est moi, mon pourcentage, c'est pas juste sur ce que j'amène. Moi, je prends 20%, c'est sur tout. Tu reçois de l'argent de la socan, tu reçois n'importe quoi, tu reçois une gig. Tu sais, en partant, la plupart de mes artistes, ils ont des agents de spectacle. Fait quoi, il y a un agent de spectacle, fait que moi, je ferai pas une cote sur ton spectacle.
Ça fait pas
fait que si je fais une cote juste sur tes streams et tes ventes, Chris, il y en a combien d'albums, man, qui sont rentables au Québec avec des streams et des ventes, puis au Canada?
Tu sais comme moi, ça paye pas les streams, là. Ça paye
ben, c'est justement. Là, c'est fait que si moi, tu me dis, hey, je te donne 20% de mes streams, Chris, parce que ton album, il faut le récupérer. Faut récupérer les dépenses avant même de faire de l'argent. Mm-hmm. Fait que finalement, t'as rien à dire, tu me paieras jamais. Fait que tu sais, c'est pas logique.
100%.
Fait que tu sais, un gérant prend sur l'ensemble des revenus qui viennent. Puis des fois, ben, il y en a là-dedans que ça va être grâce à moi parce que hey, j'ai parlé à un tel qui cherche une chanson, puis aimerait ça que tu collabores avec, ou que t'en écris une pour lui ou whatever. Puis des fois, mais c'est toi le lead qui va venir de toi. Là. Mm-hmm. Tu sais, des fois, il y a bien des producers, exemple, qui vont penser hey, moi, je vais avoir un gérant, lui, il va m'amener des clients. Il va m'amener des clients tous les jours. Et ça se peut, je t'en amène des clients. Là. Mais après, je veux dire, toi aussi, tu es supposé d'en amener, toi aussi, tu es supposé de faire du contenu, toi aussi, tu es supposé d'essayer de te vendre, puis de faire tes connexions. Puis moi, après, là, ma job, c'est pas de dire, ah, t'as amené un client, tant mieux pour toi. Non, c'est comme, faut quand même que je négocie, faut quand même que je fasse la paperasse, faut quand même que je fasse en sorte que tu te fasses payer, que tu te fasses pas passer une petite vite, tu comprends? Fait que le travail, ça arrête pas à toi qui es en studio.
Parce que c'est un peu, même presque un job d'avocat aussi, là, rendu là, presque, parce que tu négocies, mais tu dois lire ton contrat, tu dois connaître ton le légal derrière tout ça aussi, t'assurer, comme tu disais, qu'il se fait pas passer une petite vite, qu'il fait pas qu'il n'y ait pas de petit caractère que la personne n'a pas vu, que, comme tu disais tantôt, tu défends les intérêts de ton artiste aussi.
Dans mon cas, moi, oui, mais il y a quand même beaucoup de gérants et de gérantes qui ont pas nécessairement cette aptitude-là. Je dis pas de savoir ou pas savoir négocier. Là. Mais je parle vraiment de bien comprendre les contrats. T'sais, moi, je comprends les contrats du calibre d'un entertainment lawyer. Puis même des fois, je school des entertainment lawyers sur des façons de faire différentes au niveau de certaines clauses qui font comme « shit, j'avais pas pensé à ça ». Puis là, je dis pas ça pour me pitcher des fleurs, je dis ça parce que moi, j'aime les contrats puis j'ai le nez là-dedans à longueur d'année. Fait que ça, c'est une force que moi j'ai. D'autres gérants vont avoir d'autres forces. Tu sais, il y en a que j'appelle des dot connecteurs. Ils sont pourris à ce style, là. Ils connaissent rien de l'industrie. Tu leur parles des droits d'auteur, là, si ils saignent du nez, le cerveau, il réchauffe. Mais ils sont capables de te mettre dans un room avec les bonnes personnes. Puis là, rendu là, hey, là, va falloir engager un avocat pour qu'il check tout ça parce que moi, je comprends rien là-dedans. T'sais. Fait que tu as plusieurs types de personnes. Tu as plusieurs types de besoins aussi. T'sais. Quand je parlais avec un gars qui était, il est retraité aujourd'hui, mais il était éditeur et c'est lui qui allait chercher aussi tout ce qui était droit voisin pour David Guetta là, pendant des années. T'sais. Puis je dis, Christ, as-tu été chercher des placements pour David Guetta? Il dit, même pas un. Il dit, moi, David Guetta, ce qu'il voulait, là, c'est que s'il y a une scène qui traîne à quelque part, là, elle ne traîne plus. Tu comprends? Mm-hmm. Tandis que tu as des artistes, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est, ah, moi, je veux un éditeur qui va m'aider à être dans plein room. T'sais, tout le monde a des besoins différents. Fait que c'est pour ça que le fit est important. Il faut que tu trouves le ou la personne qui va pouvoir vraiment t'aider dans ta vision, dans tes besoins en tant qu'artiste. Tu sais, il faut que tu trouves le bon match, le bon gérant ou gérante pour toi.
Puis par rapport hors caméra, tantôt, là, on parlait d'un projet là, qui s'en vient. Tu travailles, si je ne me trompe pas, sur un e-book, un livre digital où tu veux donner des conseils aux artistes puis à la scène pour pouvoir vraiment connaître bien le système. Tu pourrais-tu nous donner 3 conseils avant qu'on finisse un peu le podcast? Là, 3 bons conseils qui te viennent en tête là, que tu pourrais donner à l'industrie?
Écoute, moi j'ai lancé Managed by La Flamme. En fait, j'ai burned down mon ancien management name qui était Mama's Boy pour faire de quoi plus selon les besoins de la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'ai énormément d'artistes qui me contactent, mais je ne peux pas gérer tout le monde. J'ai déjà les artistes que je gère, mais pour moi, c'est important, surtout rendu à 40 ans, de pouvoir redonner. Puis, je pense qu'à partir de 40 ans, tu sais, moi, je pense que mes meilleurs coups sont encore devant moi, mais je comprends aussi que je tombe un peu dans mon legacy time, tu comprends? Je veux laisser une marque en arrière de moi. Mais que je meurs, qu'est-ce que le monde va dire? Quand je vais partir de cette pièce-là, qu'est-ce que le monde va dire? Ultimement, je m'en calisse de ce que le monde dit, mais il reste que moi, en tant qu'être humain, je veux avoir un impact positif avant de partir. Fait que, tu sais, je veux pouvoir aider les artistes, mais ça ne veut pas dire que je peux aider tout le monde. Je ne suis pas Mère Teresa, mais il y a plein de façons d'aider. Il y a du monde, c'est juste en écoutant une chanson, donner un conseil. Il y a quelqu'un que je peux aider juste en disant, moi, je ne peux pas être un bon gérant pour toi, mais telle personne, je pense que tu serais un bon fit avec. T'sais? Puis, tu sais, en ce moment, le fameux e-book, c'est quoi? C'est juste, ça va être ma fête. Puis, je suis en mood comme, hey, cette année, man. Moi, j'ai le goût de donner. Je n'ai pas le goût de recevoir. J'ai déjà la chance d'avoir pas mal tout ce que j'ai besoin dans la vie, tu sais, pour me rendre heureux, du moins. Fait que, j'ai le goût de donner quelque chose puis aider du monde. Fait que j'ai fait un mini document. Puis, c'est vraiment facile à passer à travers. C'est très visuel. C'est vraiment comment optimiser son Spotify. Pourquoi? Parce que Spotify, si tu penses en 2024, là, que c'est juste comme je mets une toune, puis ça va streamer, puis that's it, c'est beaucoup plus que ça. C'en est quasiment aujourd'hui un réseau social. Là. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire avec ton Spotify. Tu peux vendre de la merch, tu peux annoncer des dates de tournée. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment faire. Fait que c'est un mini document de 20 pages, gratuit, je l'ai en français, en anglais. Tu dis celui que tu veux, je te l'envoie par email, bing bang, ça ne coûte rien. Puis, tu sais, ça permet aux gens aussi d'ouvrir une conversation avec moi, puis se rendre compte que je ne suis pas un robot, man. C'est pas un AI qui va te répondre, c'est moi. Ça ne veut pas dire que je vais te répondre tout de suite. Ça ne veut pas dire que je vais te répondre aujourd'hui, mais je suis là. J'essaie d'aider le plus de monde possible. Puis sinon, ben les conseils, c'est quoi? Soyez patient. Parce que ça prend du temps, bien faire le travail, mettre les choses en place. Deuxième conseil, à part d'être patient, c'est soyez humble. Parce que si on commence à faire la grosse tête, On a tous un petit ego, là, même ceux qui disent moi, j'ai pas d'ego, souvent, c'est sûr, faut que tu fasses attention parce qu'ils en ont en estime. Mais je veux dire, tout le monde a un mini-ego là, at some point or another. Puis, si tu as la tête trop enflée, des fois, tu es trop confiant, tu vas faire des erreurs. Ou, au lieu de faire justement l'erreur, c'est juste que la journée que tu vas te planter, comme on l'expliquait un petit peu plus tôt, c'est. Là, ça vient fucker un peu l'estime que tu as, là, comme là, tu penses que tu l'as pu, whatever. Puis, troisième conseil que je pourrais donner, c'est soyez prête à faire des sacrifices parce que c'est votre carrière. Tu sais, c'est selfish d'avoir une carrière. C'est ta carrière, hein? C'est pas la carrière de ta blonde, c'est pas la carrière de ton chum, c'est pas la carrière de tes enfants, c'est pas la carrière de ta mère. C'est ta carrière, c'est ton choix. Fait que si toi, t'es pas prête à faire des sacrifices, ben, pas vrai que les autres vont le faire pour toi. Puis quand tu as de l'argent, tu peux engager du monde qui travaille sur ton rêve, là, peut-être, au lieu de travailler sur leur rêve à eux autres. Mais même ça, ça a une limite. Fait que soyez prêts à faire des sacrifices aussi. Puis si je pourrais dire un petit dernier conseil, un quatrième, n'ayez pas peur de poser des questions. Essayez d'apprendre. Tu sais, c'est plein de monde là, comme moi là, qui sont prêts à en donner du temps et à répondre à des questions, surtout quand c'est poli. Moi, quelqu'un qui m'envoie un DM, c'est juste un lien YouTube de son vidéo. C'est comme, oh, je ne sais même pas t'es qui, comme introduis-toi. Mais quelqu'un qui me dit, Pat, on ne se connaît pas, mais j'ai une question par rapport à telle affaire. Est-ce que tu pourrais me prendre 30 secondes pour me répondre? Ben, c'est quoi? Oui, j'ai 30 secondes. Puis oui, ça va me faire plaisir de te répondre. Fait, n'ayez pas peur de reach out à du monde, poser des questions, puis essayer d'apprendre. Parce que c'est en vous équipant de knowledge que vous allez pouvoir avoir une différence dans votre carrière et dans celle du monde qui vous entoure.
C'est vrai. Shout out, man.
Yes, sir. Let's go. Élever la plateforme de l'art avec le Cats.
Tony.
Puis, on avait aujourd'hui Patrice Laflamme avec nous. Bonne conversation. N'oubliez pas d'aller vous abonner, commenter, liker. Ça nous donne la force comme ça qu'on grandit. And we out.